Tu as une idée d'entreprise, mais tu ne sais pas par où commencer? Si je te disais que tu pourrais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en seulement 14 semaines, tu capoterais. Alors prépare-toi à capoter parce que le CFP des riverains offre le programme de lancement d'une entreprise. Ça se passe en ligne. C'est en ligne, c'est gratuit et c'est admissible aux prêts et bourses. Qu'est-ce que t'attends? Pour t'inscrire, va sur leur site web cfpriverain.qc.ca puis recherche le programme de lancement d'une entreprise ou sinon Google, lancement d'une entreprise CFP des riverains, riverains avec un S. Tu vas me remercier plus tard.
En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute.
Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à sous écoute. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Encore une fois, cette semaine, on a un gros show pour vous autres. Puis je voudrais, j'allais le faire avant, mais on va le faire ici, tant qu'à faire. Si, ça c'est un message pour le monde qui écoute, qui ont des business. Y a-tu du monde ici qui sont propriétaires d'entreprises? OK, il y a personne. Oh, Chris! Hey, Yann, j'ai une anecdote que je trouve très drôle, puis que ça fit là, avec la réaction que j'ai eue quand j'ai demandé au monde « Merci, esti, de me donner votre argent. » Mais Jean-Michel Martel, et je le vois cette semaine vu que je suis en train de roder des affaires, puis il me dit « Esti, que c'était weird. » En m'en venant ici, il y a un sans-abri qui m'a reconnu, puis il a fait « Chris, je te connais de sous-écoute. » Puis il a fait « Ouais, esti, je suis un des Patreons. » Puis je trouvais ça fin que le gars, il est dans la rue, mais pareil, il fait « Regarde, j'ai pas assez pour un logement, mais c'est pas vrai que Mike Ward, j'y donnerai pas 5 piastres par mois. » Fait que merci, God, yes, vous êtes fin. Mais pour mes Patreons qui sont pas dans la rue, si... Non, c'est pour le monde, parce que souvent le monde me demande comment ça marche. Pour les publicités, si tu veux faire une pub sur sous-écoute que je vais lire et vivre avec plein d'émotions pour toi, envoie un message à info@commercialagence2b.com, info@commercialagence2b.com. Puis c'est ça, c'est juste ça.
C'est-tu ton entreprise à toi? C'est-tu quelque chose que tu
as? C'est pas mon entreprise, c'est que moi, j'ai demandé à une amie de ma blonde de s'occuper de ça. C'est quelqu'un qui a une bonne tête et qu'elle a une grosse job, je ne veux pas dire où, pour ne pas la mettre dans la marde chez Canuck. Mais elle... Non, à un moment donné, j'y disais juste, hey, moi, la pub, c'est tout... Tu sais, on a nos employés, puis c'est compliqué un peu avec la gestion. Puis là, juste en parlant, j'ai fait tout. Tu sais, elle t'aurais un bon brain pour t'occuper de ça. Ça te tenterait-tu? Puis elle a dit oui. Fait qu'elle s'est partie son agence. Fait que c'est vraiment parti, tu sais, genre autour d'une table, 3-4 drinks, comme tous mes projets. Mais ça, moi, je ne suis pas un des propriétaires.
Puis en plus, c'est comme un pool. C'est que tu peux annoncer sur sous-écoute, mais en même temps, il y a plein d'autres podcasts.
Oui, il y a sous-écoute, il y a couple ouvert, il y a... Distorsion, il y en a, ils sont toutes là, sauf le Daily Buffer. C'est... Non, mais j'aimerais ça avoir le Daily Buffer.
Ah ouais, ben tu peux l'avoir, un état.
OK, parfait, on va te faire de la pub.
Je t'appartiens, toi, Mike. Je t'habitche.
Hein?
Je t'appartiens, Mike, je t'habitche.
Tu vois-tu? J'aimerais ça que chaque fois que tu lises une pub, t'as juste, on voit juste ma hanche, puis tu tiens ma poche. T'es comme le show cette semaine. Puis pour te montrer qu'il est temps que la pub finisse, une claque de queue dans le front. T'as-tu passé une belle semaine, Yann?
J'ai passé une super belle semaine.
Qu'est-ce que tu as fait?
J'ai écouté beaucoup de musique cette semaine.
OK.
Ouais, j'ai écouté. On dirait que j'ai comme renoué avec la musique. J'écoute plein de musique indépendante. J'ai écouté le dernier album de Adib.
OK.
Qui est super bon. Ouais.
Y a-tu sorti un deuxième album?
Ben, je pense que oui, ou un single pour un deuxième album. En tout cas, il y a des nouvelles tunes qui sont en train de sortir.
OK.
Puis c'est vraiment bon. J'aime bien ça. Ouais.
C'est cool. Ouais. C'est cool parce que toi, tu étais à base. Ton premier podcast, c'est un podcast de musique.
Ouais. C'était de la musique électronique, indépendante.
Qui
n'est
pas de la vraie musique, mais...
ouais.
Mais, non, mais tu sais, non, ouais. Ça, c'est... N'importe qui n'aime pas la musique électronique juge ça,
ouais,
là.
Ouais.
Mais c'est de la musique de monde sur l'ecstasy.
Ouais, ouais, c'est ça.
La en musique gros, de là, riff, c'est là. Bon à créer sa pinotte, là. Mais toi, fait que t'avais un podcast en anglais.
Ouais.
En anglais.
Ça a été mon premier podcast en 2006, je pense. Puis ça pognait au bout parce qu'on n'était pas gros sur iTunes, fait que j'avais pu rentrer dans les hot and trendy. Là, puis là, ben,
ah
j'avais,
ouais, t'étais trending.
Ouais, ouais, ouais. J'avais ah plus ouais. d'abonnés, puis j'avais plus d'écoute pour ce podcast-là que j'ai jamais eu sur n'importe quel projet. C'était vraiment
puis
cool.
Puis pourquoi tu l'as arrêté?
J'ai eu des enfants.
C'est vrai?
Oui. C'est triste, mais c'est ça pareil.
Mais tu savais j'avais plus de temps. Un podcast, tu sais. T'en faisais-tu un à tous les jours?
Oui, mais tu sais, dans ce temps-là, non, c'était à toutes les semaines, mais tu sais, dans ce temps-là, je travaillais beaucoup à TQS. Okay. C'était de nuit. Puis là, tu sais, le matin, je m'occupais des enfants, j'allais les porter. Ça a été une période rushante, là. C'est pour ça que ça m'a pris un bon 4 ans avant de recommencer un autre podcast. Mais là, tu sais, je n'étais pas capable de me réécouter en anglais. Là, c'était épouvantable, mon accent. Là. Le monde riait, tu sais. Le monde qui écoutait, il trouvait ça exotique, mais moi,
qu'est-ce,
je me trouvais...
Mettons, tu sais, parce que là, tu parles mieux anglais que tu parlais, mais mettons, tu présentais une toune.
Ouais.
OK, mettons, présente...
Non.
T'sais, non, non.
Non, non, je te vois venir. Okay. Non.
OK. Fait que, mais t'arrivais avec ton accent du gars
ouais,
que ça fait
puis ouais.
3 semaines qu'il est à Montréal.
Ben, je faisais comme Bourgo. Je l'exagérais. Fait que le monde trouvait okay. ça drôle. T'sais, tant qu'à être mauvais,
fait
autant l'exagérer.
Fait que comme, here's t'sais. Crazy Frog, let's go! C'était... En gros, c'est ça, en crise.
Oh, c'est
y a-tu moyen... Ça, y a-tu moyen de trouver ça sur YouTube?
Les vieux épisodes de mon podcast?
S'ils ne sont pas sur YouTube, là, sors-les en audio sur ton seulement. Patreon. Sors-les en exclusivité sur ton Patreon.
Ah,
ça quoi. Serait malade, ça.
Ouais, ouais,
ça
ouais.
serait malade. Asti, ouais, ouais. que je paierais cher pour entendre un Yann asti, de 29 ans, les cheveux un peu longs. T'avais-tu, tes cheveux étaient comment à cette époque-là?
Ben j'avais un beau toupette, là.
OK.
Comme toi, là.
OK.
Ouais, ouais. Comme toi, mais j'avais 30 ans, tu sais.
OK,
fait que,
ah ouais.
Ouais, ouais.
Fait que pas un super beau toupette, mais... T'avais des cheveux dans le milieu.
C'était déjà mieux, en tout cas, okay. que ce que j'ai là. Là
ah, c'est bon. Ouais. T'as commencé à caler à quel âge?
Ah, c'est venu plus tard, mais moi, j'ai commencé à caler à cause de mon psoriasis qui était okay. vraiment
sévère. Je pensais
sévère.
Que t'allais encore blâmer tes enfants. Moi, mon podcast qui marchait, je l'ai fait pourquoi? À cause de mes enfants. C'est quand t'as commencé à être chauve. Mon astuce de fille! Fait que c'est ton psoriasis qui t'a fait perdre des cheveux.
Ouais, dans les années, admettons, je dirais, ça a commencé pas mal 2014-2015.
OK.
Là. Ouais, ouais.
Ah, Chris.
Ouais, ça a été sévère. Là. C'est pour ça que je pouvais même pas envisager faire replanter
ah, ouais,
à cause du psoriasis.
Aussi.
Ouais. Là, sinon, j'aurais aimé ça, mais la manière qu'ils font ça, c'est tellement visible parce qu'ils font ça vraiment comme... Une plantation d'arbres, ils sont tous alignés. Là.
Oh, ouais.
Ils te font un quadrillé, tu sais. Il me semble random, ça aurait l'air plus naturel. Oh,
ouais. Ouais, surtout, mais tu sais, c'est comme si t'es tout gonflé puis rouge, puis des lignes noires, c'est tough un peu de faire comme non, non, c'est naturel. Là, tu y penses-tu faire ça?
Non.
T'as abandonné ce projet.
Je suis en paix avec ma tête rasée.
OK. Ça te fait bien, par exemple. T'as une belle tête.
Hein, tu trouves?
Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a une belle tête. Tu trouves-tu, Chantal? Il y a une belle tête. Oui, elle est ronde. Chantal a dit... J'ai demandé, t'as-tu une belle tête? Elle a dit, elle est ronde.
Elle est ronde.
Qui est le pire compliment que tu peux avoir pour ta tête. Qu'est-ce que Yann a de l'air d'un pamplemousse? Bon, hey, on va starter ça, le podcast. Ça te tente-tu, Yann?
Yes, sir.
Cette semaine, on a parlé de musique. C'est un spécial musique, mais c'est pas du monde de dance. C'est deux gars que j'adore. C'est des légendes du rock québécois. Je suis tellement content de les avoir. De Extérieo et Rouge Pompier, voici Jesse Fush et de Groovy Aardvark et Grim Skunk, Vincent Peak. Comment ça va? Merci d'être là. Merci. Merci, les gars, d'être là.
On refuse pas une invitation de la sorte, mon chum.
C'est très cool. Très cool. Comment tu te sens, tu sais, quand j'ai dit ton nom, d'entendre le monde faire « Oh, shit! »
On s'habitue.
C'est vrai? T'es rendu blasé.
Non, j'en reviens jamais.
OK.
C'est comme Ozzy disait « Ah oui, des fois, il faut que je me rappelle que je suis Ozzy. Faut que je me rappelle que je suis pas Ozzy. »
OK. Puis vous autres, tu sais, Jesse, que j'avais, il a fallu que je te demande, comme tout le monde qui te présente, faut qu'il te demande comment qu'on prononce ton nom. Parce que même en le prononçant, même si tu m'avais dit, c'est de même que je le prononce, Fuchs comme Fuchsia, j'étais comme, je pense que je me suis trompé. Mais c'est Jesse Fuchs, que c'est allemand, ça?
Ouais, c'est alsacien. Ma famille vient d'une portion de la France qui est proche de l'Allemagne, okay. Puis là-bas, c'est comme Tremblay. Fait que Fuchs comme la couleur, mais là-bas, ils prononcent pas ça comme ça.
OK. Ils le prononcent comment?
C'est Fuchs comme, un renard en anglais. Fox, en allemand,
okay.
C'est
Fuchs.
Ça. Ouais, c'est ça.
OK.
Anecdote de ma vie, c'est depuis toujours ça. Cette histoire-là,
ouais.
Tu sais, à l'école secondaire, quand ils font le panneau des finissants, puis ils mettent ça dans le couloir, puis ils mettent le nom de tout le monde, les photos, là. Moi, ils ont écrit mon nom, Jesse Fuchs, F-U-C-K-S.
OK. Ah, oh, ouais.
Fait que le verbe conjugué, là.
Ah, oh, ouais, ouais.
Puis là, ben moi, je sais qu'avec la face et l'âge que j'avais, il aurait pu mettre dans les W, genre Jesse Wish to fuck, là, ah, mais
ouais.
Pas Jesse Fox.
Ouais, c'est bon, un Jesse Fox.
C'est ça, puis là, c'est comme ça pour toujours.
C'est une photo de toi qui est comme « Yeah! »
Mais ça va être comme ça pour toujours, tu sais, okay. C'est là, puis c'est ça.
Moi, avec Peak, à l'école, c'était cruel. Peak assiette, Peak bois, speaker, c'est okay. Qui me lâchait pas. Mais là, quand t'arrives en musique... Pic, c'est ton vrai nom, ça?
Ah, ouais,
aïe, aïe, moi, je pensais que t'étais tout le temps dans le vieux, tu chantes fort, t'es dans le pic. J'étais prédestiné à chanter fort, faut croire.
Toi, quand. D'ailleurs, ça, je veux. C'était pas moi qui ai fait ça, mais je voulais m'excuser pour Radio-Canada. Parce que, tu sais, il y a une couple de semaines où, là, c'est rendu une couple de mois, il y a eu mon en direct de l'univers, et t'es venu chanter, puis tout le monde, tu sais, ils ont l'heure, c'est mettons, ça va être écrit. Ça va être écrit, mettons, si c'était. Si c'était toi, ce serait marqué Jesse Fuchs, le rouge pompier. Et toi, c'était marqué Vincent Peak, chanteur
d'un groupe
que Mike a déjà fait sa première partie. Ça avait l'air comme si tu avais gagné un concours rêve d'enfant pour être à Radio-Canada.
Ben, on s'appelle maintenant un groupe que Mike Ward a déjà connu.
Moi, j'étais comme 40 ans de carrière, c'est écrit chanteur d'un band.
Ah ouais.
J'étais comme, ben voyons
ah ouais.
donc.
Ah ouais.
Ben, au moins, ils ont pas mal éplé le nom.
Parce que, ah ouais.
à l'instar de Jesse Fuchs, c'est ton Aardvark, c'est encore pire parce que les deux A, ça faute tout le monde. On va faire un t-shirt un moment donné avec toute la fois que le nom a été mal éplé. Parce que jusqu'à là, pas longtemps, Eric Parazelli, qui ça fait 30 ans qu'il couvre la musique, il écrit encore mal le nom Aardvark.
Ah ouais,
alors qu'il en a parlé des
il
années
fait avec un A.
Lui fait, non, lui met des double A partout. Il en met quatre.
Ah, il met A.
A, D, V, A, A, R, K. Fait que il prend pas de risque.
C'est un alcoolique, le gars. C'est juste. Il est dyslexique. Il voit les A partout.
Moi, je m'occupe du label qui a Groovy. Ah, ben oui.
Santé, la gang.
Cheers. Merci d'être là. Merci.
Santé, tout le monde.
Merci.
Moi, je m'occupe du label qui a Groovy. Puis. C'est un gag au bureau à toutes les fois que le nom est mal écrit. Puis ça fait le tour. Ça fait le tour. C'est encore très, très moderne là, de se tromper sur le nom. Puis pourtant, 40 ans après, j'imagine.
C'est pas un nom français, c'est un nom africain. Ça vient d'Afrique. C'est un fourmilier. C'est une okay. bébite là, qui mange des fourmis. C'est un peu ça le concept. Que la fourmi représente la société. Puis l'Aardvark, c'est lui qui est l'électron libre. Puis que lui, il vit en marge de tout ce qui est organisé. Puis ça représente un peu notre. Quête de liberté quand t'es jeune.
Okay.
Fait que c'était ça l'exemple, puis c'était ça un petit peu la raison pour laquelle on voulait appeler ça Groovy Aardvark, mais quel mauvais nom pour des francophones.
Ouais, ouais, ben ouais.
Fait qu'ils ont carrément droppé le Aardvark, ils se sont rendus Groovy.
OK, ouais, ouais.
Tout le monde s'appelle Groovy.
Groovy, qui est un autre mot qui n'est pas en français.
Pas en français, mais plus facile à dire et plus facile à comprendre.
Ah, ouais, ouais. Ouais, mais moi, je me rappelle, à l'époque que j'ai commencé à faire de l'humour, tu sais, c'était bien important pour moi d'avoir un walk-in en français, vu que tous les humoristes avaient des walk-in en anglais. Puis moi, à l'époque, là, à cette heure, le monde me perçoive comme un Québécois francophone. Mais au début, j'étais comme le monde me voyait comme l'anglais. J'étais l'anglais. Fait que c'était important pour moi. J'étais comme, hey, je vais avoir une toune québécoise me présenter. Puis j'avais essayé avec du groovy. Puis Astix, ça marchait pas comme walk-in parce que première toune que j'avais pris, c'était votre remake de Petit Bonheur. Puis là, le monde, c'était « Mesdames et messieurs, voici Mike Ward. C'était un petit bonheur. » Puis là, le monde était de même. Puis là, moi, inconnu, j'arrive sur scène, puis il était comme « C'était ce trou de cul, esti. » Puis là, après, j'avais essayé avec Dérangeant. Même affaire, esti. Puis le monde, j'arrivais, puis là, le monde n'applaudissait pas, tu sais. Mais le monde était juste en crise après moi que je gâchais leur toune. Fait que là, je suis comme « fuck off, je vais rentrer sur du Marilyn Manson. » Ça va être plus simple.
Ouais. C'est pour ça que ça, l'émission, c'est « Beautiful People ».
Oui, exact, okay. Exact.
Ben, je le prends comme un compliment, finalement.
T'as scrappé mon début de carrière.
Tu t'es bien repris.
Mais ça quand... c'est ça... Ça fait pas 40 ans pour vrai que tu fais ça?
Groovy Aardvark, ça fait 37 ans, mais moi, j'ai commencé... mon premier show, c'était en septembre 84.
OK. T'étais au secondaire?
Ma première année de cégep.
Caliste, t'as quel âge, c'est-tu?
Je vais avoir 79.
Non.
Mais je vais avoir 57.
Tabarnak, t'as de la jeune!
Hey, merci.
Voyons donc, c'est-tu?
Ouais, ben, je me
tiens. T'as 57?
Ah, ma blonde, elle a 15 ans moins que moi.
Caliste! Hey!
Elle est là, d'ailleurs.
Hein? Yann, t'avais 9 ans quand t'avais les cheveux de même. C'est quand même fou.
Ouais, malade. Exact. Je suis encore capable.
Tu pensais-tu, puis, tu sais, comme là tu fais un show prochainement, ou y a-tu passé... Tu sais, t'avais un gros show au Metropolis, y a-tu passé?
Oui, non, c'est le retour de Grimmskunk, en fait, après 3 ans, parce qu'il y a eu le confinement, puis après 30 ans, eux autres aussi, il y avait un break qui s'imposait. Puis on a changé de drummer. Alain Volbonker, drummer original de Grimmskunk, est revenu dans le décor.
Okay.
Fait qu'on fait 2 Metropolis, puis les 2 sont pleins, le 10 mai puis le 18 mai. On pense peut-être en faire un 3e en novembre. Mais ce qui est trippant, c'est qu'on décide de faire 2 shows complètement différents, 66,6% différents pour être exact. Donc, il y a juste 9 tunes qui se répètent dans les 2 shows. Et là, on peut puiser dans les 9 albums de Grimmskunk et même les premiers démos, plus que le drummer original, Alain, est là. Il y a bien des tunes que Ben Shatskoff, qui a remplacé Alain, là, 14 ans, ne pouvait pas faire ou juste pas le temps de faire ou ça ne tentait plus de faire. Mais là, avec le retour de l'enfant prodige au drum, on peut vraiment se permettre d'aller loin et se permettre de faire 2 shows presque différents. On a Moment Factory qui embarque dans le trip.
OK.
Fait que ça va être un show visuel de feu.
Okay.
Fait que, tu sais, tant qu'à revenir, on fait ça comme du monde.
Puis, c'est malade. Ça, le Moment Factory, es-tu embarqué parce que c'était des fans de Grimmskunk ou est-ce que Grimmskunk a secrètement beaucoup d'argent? Puis, j'étais juste comme pas au courant richesse de Grimmskunk.
Le pot, tu vends moins cher qu'avant. Okay. C'est pas aussi. Non, parce que Gabriel Pontbriand, qui travaille chez Moment Factory, et c'est lui qui éclaire le pont Jean-Cartier d'ailleurs.
OK.
Gabriel Pontbriand, c'est ça son nom, tu sais.
Son nom? Ouais. Pontbriand? Ouais. C'est lui qui a fait les lumières du pont?
Je te niaise juste pas. J'habite au coin de la rue, je vois le pont tous les soirs, je pense à lui tous les soirs. Lui, il a lâché l'école pour suivre Groovy en tournée pour être notre éclairagiste.
OK.
Puis là, il est monté à Grimmskunk, il est monté avec les 3 accords, puis il a fait son chemin, il s'est ramassé à Moment Factory. Fait que Gabi, c'est un jeune.
Il a capoté quand il est arrivé à Moment Factory, puis il a réalisé que c'était pas un band. Tu sais, s'il suivait tout le temps des bands, il était comme, c'est calé, c'est un bureau, est-ce que
Mais
j'éclaire un peu.
Ouais, ouais, mais rajoute 2-0, puis ça se peut que tu restes.
C'est pour ça. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, ça doit être plus payant éclairer un pont qu'éclairer un band. Ah ouais.
Fait que
c'est très malade, Gabi,
il a fait
de la pyrotechnie quand t'embarques sur le pont.
Des roboscopes, ça serait top, par exemple.
Puis Grimmskunk, c'est vous autres qui produisent aussi?
Non, Grimmskunk, ils sont avec Indica. Ben, ils étaient avec Indica à l'époque. Puis tout, là, c'est eux autres qui sont partis de le label. Mais c'est des légendes, là. Je veux dire, Grimmskunk, en fait, c'est ça qui est le plus fou. C'est Groovy puis Grimmskunk. C'est les deux bands qui étaient...
C'était les deux
gros bands.
C'était
des compétitions, en fait, à l'époque.
Ben moi,
puis maintenant, lui, il est dans le dark side.
Mais
dans
quand t'as commencé à jouer de la bass pour Grimmskunk, tu sais, je me disais... Ça, j'avais vraiment fait comme... Chris, je pensais que les gars saillissaient. Ouais. Mais je suis sûr que vous ne devez pas vous aillir, mais les fans étaient sûrs. Tu sais, que t'sais, par ses Coke et Pepsi, ou tu sais, il y a tout le temps un...
C'est vrai, ça. Puis moi, j'ai connu Grimmskunk en 89. J'ai vu leur premier show à Saint-Hyacinthe. Je les ai adorés instantanément. Je me suis présenté. Et on est devenu chum là, tu sais. Okay. Ils ont fait des shows ensemble, les gars. C'est que ça marche. Puis c'est le même que tu crées une scène internet, que tu crées une scène, tout simplement. Ouais. Pas de compétition. Moi, j'ai trouvé vraiment impressionnamment bon pour un début. Puis il était mature musicalement. Puis il avait eu un background avant ça, mais j'étais impressionné. Puis à place de voir ça comme de la mauvaise compétition, tu vois ça comme un ennemi formidable.
Ouais.
Qui te pousse à être meilleur. T'sais. Fait qu'on s'est toujours poussé l'un l'autre. Et les deux camps, ça vient de tout le monde à l'extérieur. Puis nous autres, on a toujours été très chum. Puis c'est pour ça que quand Boris est parti en 2004, ça fait déjà 20 ans que je suis dans ce band-là,
okay.
Ils ont tout pensé à moi parce que j'étais à toutes les shows, je connaissais tout par cœur, je participais aux albums, tu sais. Ça a été un plaisir de pouvoir rentrer dans mon band préféré à ce moment-là. Puis Groovy a pris un break. Moi, c'était clair que Groovy prenait un break en 2005. Fait que moi, je savais déjà que Groovy arrêtait. On savait pas si c'était défini ou non. Fait que je dis, bon, ma gars, pour avoir ma chance de continuer à faire de la musique de façon professionnelle et de façon constante avec un band que j'adore. Fait que j'ai fait Grimmskunk pendant des années. Là, Groovy, on a décidé de revenir en 2012 quand Laurent Saulnier nous a invité à faire ce qui aurait été le 25e du band. Okay. Fait que là, Groovy a repassé. Moi, je pensais pas que ça allait repasser ce band-là, mais finalement, ils nous ont donné le plus gros show qu'on a fait de notre vie au Franco. C'était 50 000 personnes. Puis ça, fait que ça a reparti. Puis là, le monde, le téléphone sonne, puis ça tente de faire des shows. Fait qu'on a comme continué à surfer Groovy parallèlement avec Grimmskunk.
OK. Puis vous autres, tu sais, comme toi quand tu as commencé à faire de la musique, tu as commencé en quelle année?
Ben moi, mon premier band d'extérieur, j'avais 12 ans, en 92.
Okay.
Ouais.
Tu avais 12
ans? Oui, c'était notre 92, été 92, okay. Là, puis ça a pris 10 ans avant qu'on sorte notre premier album. Okay. Là, mais je veux dire, c'était notre band d'adolescents.
OK.
Puis,
hey, ça doit être rare, ça, tu sais, mettons que... Fait que toi, tu avais 12 ans, puis les autres gars avaient quel âge?
Ouais, tous 12 ans.
OK. Fait que c'est rare que tu commences à faire de quoi à 12 ans, puis à 22, tu sais, vous existez, ouais, encore. Ben tu sais, là, ça sonne comme si tous les ados se suicident, là. Mais, tu sais, techniquement, si t'es là à 12 ans, Mike, tu devrais exister à 22, mais que vous êtes encore dans le même band.
Ben, dans le fond, cette band-là, faut comprendre, moi, à 16 ans, là, j'étais déjà intéressé par, genre, les affaires bizarres comme le droit d'auteur, là, tu sais. Fait que... Okay. J'étais un peu weird, puis ça a tenu le band, tu sais, le côté plus industrie, le côté comme essayer de partir son band, de s'occuper de ça. Fait que ça a tenu le band, mais n'importe quel band qui commence à 12 ans habituellement, après 4-5 ans, tu vas au cégep, les bands se splittent, ça passe à d'autres choses. Parce que moi, j'étais bien, bien primé, j'écrivais les tunes, là, ça me tentait. Fait que c'est sûr qu'à 22-23, quand ça a commencé à pogner à notre premier album, là, moi, tu venais de m'injecter, là, puis j'étais parti pour la gloire.
Puis ton premier album, est-ce que vous avez signé avec un label ou t'as parti direct?
C'est mon propre label, okay, pour mon, okay, propre band.
Même
ça.
OK, au début.
Ouais,
début.
Les clips, tout au complet, nous autres.
Parce que vos clips étaient malades, tu sais. Tu sais, t'étais dans les dernières années des bons vidéoclips, ouais, de Musique Plus.
Merci, t'es fin. Mais pour vrai, il faut donner du crédit à Francis Cloutier.
Francis Cloutier, des Chickenswell.
Parce que dans le fond, moi, quand le band a commencé, nous autres, on était fans des Chickenswell. Puis on a pris... C'est bizarre, on est allé les voir dans un lancement de saison, là, puis j'étais allé voir les gars, puis j'étais comme, est-ce que vous voudriez faire notre clip? Mais on n'était rien, fait que les chances qu'ils disent oui étaient très, très minces. Je l'ai essayé comme naïvement, puis je me suis retrouvé un jour dans l'appartement avec Francis Cloutier, il y avait Simon-Olivier Fecteau, il y avait comme plein de légendes, puis moi, je suis là à 22, puis j'ai vraiment pas de crédibilité, puis je me dis, qu'est-ce que je fais ici, là, tu sais, là. Mais Francis a embarqué, il a fait nos 6 premiers clips, ça, okay, full pas lié. Ouais, ouais.
Ah, je savais pas qu'il en avait fait 6. Je m'en rappelais un, que c'était comme un film d'horreur.
Ouais, ouais.
C'est
il était bien fan de faire ça aussi, fait qu'on, okay, pouvait switcher de l'humour au film d'horreur, là.
OK.
Ouais. Mais dans le fond, Whippet, le premier, là, c'est un clip que j'ai tout fait, tu sais, le financement, les décors, la gang, la patente. Puis là, Francis est arrivé avec ses idées, puis il y avait une feuille, là. Il faut avoir ça. On l'a amené, puis le soir même, là, il a improvisé ça, là, comme un champion. Puis ça a marqué une belle amitié, parce qu'après ça, il a fait tous les autres clips qui ont suivi, qui sont encore aujourd'hui des clips très écoutés. C'est ça qui est surprenant.
Ils sont tous sur YouTube.
Ah ouais, c'est, okay, fou. En fait, Bizarrement, moi, j'arrive pas à me sortir d'extérieur. C'est ça qui est bizarre. Parce que moi, j'ai un band qui s'appelle Rouge Pompier maintenant. Ah oui. Mais Weepet puis Bonhomme 7 heures, là, j'en parlais cette semaine. Là, c'est comme si j'étais dans un party récemment, puis il y a quelqu'un qui, quand ça, ça a joué, qui m'a regardé, il a dit oui, mais ça, c'était bon.
OK.
Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Comme s'il n'y avait rien fait de mieux depuis Weepet. Mais ouais, c'est ça. Ça me suit.
Puis Rouge Pompier a vu le jour en 2010.
En 2011, parce qu'on a fini Extérieur okay. en 2011. Puis moi, okay. j'avais déjà l'idée de continuer de faire de la musique.
Puis toi, t'avais ouais. déjà ton. Ben, tu sais, t'as parti ton label pour Extérieur.
Ouais.
Mais après, t'avais combien de bandes rendues en 2011?
En 2011, regarde, là, on a un catalogue de peut-être 2000 tonnes sur une centaine de bandes. On devait avoir une cinquantaine de bandes avec.
OK.
Ouais, quand même pas mal. Tu sais, j'étais la musique rock là, francophone, c'était notre créneau. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui se concentrait que pour ça. Il y avait des indicas, il y a des stumps et tout ça. Mais je veux dire, c'était pas, il n'y avait pas 22 des labels. Fait que les bandes venaient chez nous, puis ça, c'était vraiment le fun. Puis ça m'a permis de faire mon école. Parce qu'un jour, quand moi, je rencontre Vincent, puis moi, j'ai envie de travailler avec lui, il faut que j'aille la confiance d'être capable d'y proposer des projets.
Ouais, ouais.
Fait que ça a été toute une école. Là. Ben oui, c'est sûr.
Puis, fait que Rouge Pompier voit le jour, puis c'est toi. Puis c'est quoi le nom de l'autre gars qui est avec toi dans Rouge Pompier?
Alexandre.
Fait ouais. que vous êtes juste deux.
Oui, ban à deux. Puis à l'époque, il y avait comme une mode de ban à deux. On a embarqué là-dedans. Puis c'est encore. Là,
c'est un esti de son. Tu sais, quand t'écoutes, tu sais, ça sonne comme un full band.
Ben, c'était un peu ça l'idée. On voulait pas que le monde soit déçu en venant voir le band. Juste, fait qu'on a dit, il faut que ça pète. Fait que ce qu'on fait, c'est des choses que le monde. Nous autres, on est au centre, puis le monde sont autour de nous.
Okay.
Fait qu'ils peuvent se placer où ils veulent, en fait. Là. Puis ils peuvent aller voir Alex derrière, ils peuvent être derrière moi, sur le côté. Puis c'est vraiment un setup trippant où est-ce que le monde a l'impression de participer au show. Puis là, après ça, ben, mettons, quand on joue avec Groovy, dès que nous autres, on finit, c'est vraiment simple de partir, d'enlever tout le stock. Puis là, ça devient la place pour le mosh pit. Puis là, les autres commencent à jouer, c'est malade. Là. Le monde
fait que vous dérangez même pas le stage.
Il n'y a pas de changeover sur le stage comme tel. C'est cool,
les autres sont installés, nous autres, on a fini, schlack.
Vous êtes juste comme des fans qui ont amené de l'équipement.
C'est ça, on a fait ça. On va se mettre ça. Ça, c'est ma guide.
On peut se faire 6 tunes? OK, enfin, ils sont déjà installés. On ne dira pas non. Là.
Hey, le dernier show qu'on a fait avec Groovy, puis ça, je sais pas, je pense que tu n'étais pas au courant, mais le show finit, puis tout le monde est en train de débarrasser puis de démonter les affaires, puis mon drummer à la merch, il voit une plug, puis il pense que c'est nos lumières de la merch, OK? Mais le show est fini, puis le monde est parti. Puis il débranche ça, puis il se rend compte que ça, là, c'était tout le kit de son au complet. C'était une plug non protégée. Qui, c'était genre, n'importe qui aurait pu tirer à n'importe quel moment dans la soirée, ce plug-là. On s'en est rendu compte à la fin, puis lui puis moi, on regardait ça, puis on était comme, hey, on était à ça d'une catastrophe pendant que les autres, ils jouent, là, tu sais, t'imagines, là, genre, juste c'est notre merch, on veut faire, eux autres, ils jouent, drop le, incroyable. On est en 2024, puis c'est encore brun.
Ça, y a-tu des fucks qui arrivent souvent pendant des shows de même?
Man, le plus gros fuck qu'il y a eu, c'est le plus gros show qu'on a jamais fait. C'était Woodstock en Beauce,
okay.
Genre 2005-2006. Dans le temps que ça roulait, on jouait avant Bad Religion, le okay. vendredi soir. On jouait à 9h. On a le spot parfait. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Woodstock en Beauce. C'est un terrain de 4 km², OK? Puis c'est huge, là, c'est un grand camping. Fait que c'est une grosse génératrice. Qui alimente tout ça, tu sais.
Oh, ouais.
Le stage puis tout, tu l'entends, ben, c'est grrr, là, tu sais. On est dans une tune qui s'appelle Amphibien. On est dans un jam de percussion qu'on fait toujours dans cette tune là. Manet, tout lâche, tout le stage, tout le set dans le noir total. Plus rien qui se passe. Comment l'apesanteur, mon gars. Tu sais quand tu rumble pendant une heure, là, Manet, je te dis, ça fait comme coup. Comme à ce moment-là. T'sais.
Vous étiez où dans le pacing?
On c'était là où ça se passait le mieux, là. Okay. C'est, aux deux tiers. Là.
Okay,
le genre de percussion, c'est pas mal là que tout le monde danse parce que tout le monde peut comprendre la percussion. T'sais. Et là, il se passe ça, puis là, bon, il y a où le problème? On ne sait pas. Man, on n'a jamais pendant 20 minutes pas de son avec les bras meurtris. Mané, c'est comme l'année, tu bûches parce que tu en as 200 de l'avant qui entendent, mais tu as les 10 000 autres qui entendent fuck all, tu sais. Pour apprendre. Ah, là, t'as les techniciens qui sont là avec deux flashlights puis qui font de la lumière. Ils improvisent de quoi à la Genie? C'est comme, waouh, qu'est-ce que vous êtes dedans? Pour apprendre que c'est notre truck. Ben, là, on apprend que sa génératrice, elle a plus de gaz.
Oh,
et
ouais?
Que c'est notre truck qui bloque la génératrice. Fait que là, trouve les clés. Ça a pris une demi-heure. On n'a jamais eu de la percussion pendant une demi-heure jusqu'à temps que ça revienne, tu sais. Depuis ce temps-là, au Stock en Bas, ils ont deux génératrices.
Okay.
Ils ont une génératrice de backup. Man, ils n'ont pas pensé à ça, pareil, tu sais. Le vendredi soir, 9h, là, il était rendu 10h, mettons. Hey, ça, c'est le pire fuck qu'on a jamais eu.
Tu sais, d'avoir des canisses de gaz, tu sais, me semble.
Ben tu sais,
si ton plan d'affaires, c'est une génératrice, Ça te prend du gaz.
Quand tu veux économiser, puis t'économises à la génératrice.
Et de tous les food trucks, c'était tous les restos, les lumières, le tout, là, c'est mal. Ça a fait tchou! Plus rien. Manque de gaz.
Tabarnak.
Là, ton samedi, il est compromis aussi. En tout cas, il restait Bad Religion aussi. Il ne pourrait pas vivre que ça arrive à eux autres, parce qu'ils font pas de percussion eux autres.
Ouais. Ça, mais, autres, on a plus. Je me demande, c'est quoi le feeling quand, tu sais, mettons, eux autres, ils étaient comme à une demi-heure, 45 minutes de jouer, puis tu réalises, Chris, il devait penser que c'est une panne de courant, tu sais.
Ouais, ben c'est
ça. Ils ne pouvaient pas catcher que c'était juste.
Ils ont, je sais pas, mais l'horloge a dû pas avoir de lumière aussi parce que tout a éteint d'une shot. Là, fait, les autres mains font comme, what the fuck, tu sais. Puis comment ça va être réglé? C'est quoi le problème? Autres, tout le monde est dans le noir tout d'un coup.
C'est-tu le fun? Tu sais, mettons les festivals comme les Woodstock en Beauce puis le Rockfest. Rockfest, en tant que fan de show, c'était vraiment le fun. Mais en tant que band, c'était-tu de la merde?
Woodstock en Beauce, c'était très cool. Rockfest, c'était de la merde.
OK. C'est quoi qui faisait que Rockfest, c'était de la merde?
Alex Martel.
Là, tu...
OK. Ah oh, ouais, moi, c'est Alex cherches, Martel. Okay.
Non, non, okay. Mais...
Tu gars. Me cherches, Mike. Pas venu ici te me battre, là, c'ti. Ah
ouais. Ben, écoute, il a mal géré son festival. C'est dommage parce qu'il y avait une idée en tête qui était grandiose, puis il a bâti... Peut-être le plus gros festival rock que le Québec a connu, mais il était trop gourmand. Il payait ses bandes internationales beaucoup trop cher, ne payait pas les bandes locales, les traitait comme de la merde. Il y avait trop une dichotomie entre ces gros bandes et les bandes québécois. Il y a un million de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Ça ne me tente pas vraiment à la marquer là-dedans.
Okay.
Parce que je suis un peu tanné d'en parler, puis c'est de la mauvaise vibe, c'est du mauvais karma. Mais je pourrais dire qu'il a saboté son propre festival.
OK.
Ouais, puis là, il fait des shows avec son band là, en international, puis il espère se faire oublier, j'imagine, un jour. Mais à toutes les fois qu'on entend son nom, là, on est tous triggered. Là.
Ah ouais?
On a toutes des mauvaises expériences.
Ouais. Ouais, c'est même pas drôle. T'sais, la première année, il manquait tellement de toilettes que ça a fucké l'écosystème de la rivière Outaouais parce qu'il y a une marina. Là. Puis il a fallu que la ville excave, genre 6 pieds de terre, parce qu'il y avait de la piste, puis la merde partout. Puis là, l'année d'après, il n'y avait pas plus de toilettes. Comme, il n'écoute pas quand tu proposes des solutions à ton affaire. Puis il fait à sa tête, il fait toujours à sa tête. Tu reviens l'année d'après. Si, à un moment donné, il y avait un line-up d'à peu près 3 km parce qu'il marchait encore avec la carte de crédit Ketchik. Ketchik, Ketchik. Si le monde se rendait avec des téléphones, hey man, là, les bandes commencent à midi. Il y a trop de bandes sur 4 jours. Il y a comme 400 bandes. Ouais. Tu peux pas toutes les voir de un, puis tu peux pas toutes les payer comme il faut de deux. Puis après ça, tu manques tes 3 bandes préférées. Mettons, parce que ça fait 3 heures, tu fais la file parce que ça fait ketchik, ketchik. Tu sais, il y a plein de systèmes. C'est archaïque, son affaire. Puis quand tu fais ça la deuxième année, c'est ouais, on t'a pas compris la première année. T'as du monde qui vient pour voir le bal à midi. Là. Ou bien, t'as des musiciens qui peuvent pas rentrer parce que la gate est pleine, puis ils manquent leur show. T'sais. C'était mal organisé. Pas de bouffe pour les jeunes bandes, pas d'eau. Il fallait être au dépanneur. Il fallait que tu vendes des billets toi-même.
Ben ouais.
Pour financer son festival à lui.
Oh, ouais, genre, okay. Si tu veux une place sur le festival, il demandait aux jeunes bandes de vendre des billets.
Ah, ouais.
Puis, mais tu sais, un festival qui va chercher Rammstein, mais qui demande aux jeunes bandes de vendre des billets, c'était fou. Moi, je l'ai fait 2 ans avec Extérieur dans les premières années. Puis pour Rouge Pompier, j'ai refusé à toutes les fois qu'il me l'a demandé. Même s'il augmentait le cachet, je disais non, 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 non. J'encourage pas ça. Même que je portais un gendarme fuck le Rockfest pendant que j'étais au FEQ devant 12 000 personnes, tu sais. Ah non, c'était non-no. Moi, je l'ai pris personnel à un moment donné. Là, j'étais comme là, ça va faire les festivals qui abusent des bandes. Là, pis, ça, c'est vraiment de la merde.
Puis, c'est qui, quel festival traite mieux les bandes?
Festival d'été de Québec, ils ont de la classe.
OK. Ouais,
c'est vrai que la fois que je l'ai fait, c'était complètement fou. Mais là, c'est
parce Montréal.
Ouais,
Montréal, le catering était débile. C'est un chef connu qui a fait de la télé. C'est un genre de rockstar de la cuisine.
Quand c'est des gros événements comme ça. Moi, j'ai travaillé pour Evenco pendant une période de ma vie, puis j'ai compris leur mentalité. Ils ont dit, c'est pas grave si on perd de l'argent sur plein d'aspects, par exemple, bien servir les bandes, mais ils vont s'en souvenir, puis ils vont parler de nous dans le futur. Quand ces bandes-là qui sont gros comme ça vont devenir big, ils vont dire, j'ai été bien traité. Fait que ça leur dérangeait pas de perdre de l'argent sur comment recevoir les artistes, mais c'est quand même des grosses organisations, ils peuvent se le permettre. Je pense que c'est là où ce qui est le succès comme d'une grande entreprise, c'est d'être capable de perdre de l'argent sur des affaires, puis de pas économiser sur chaque détail.
OK, ouais.
Ouais, c'est ça.
Merci. Fait que festival d'été de Québec, tu sais comme mettons un festival d'été de Québec paye bien, j'imagine.
Ouais.
Moi, mais là ils ont changé de braquette un peu, ils ont changé leur fusil d'épaule.
Ils ont-tu droppé?
Ben, c'est-à-dire qu'ils font moins attention peut-être au rock local, je te dirais. C'était un gars qui s'appelait M. Beauchesne qui nous organisait. Lui nous aimait bien, fait qu'on était là chaque année. Depuis que ça a changé, on n'est pas invité, tout simplement.
OK.
Mais bon, le rock aussi a shifté. C'est plus exactement aussi populaire que ça a été des années 90. Il y a ça. Reste que...
Mais il y a quand même la compétition au FEQ ailleurs au Québec. Il y a plein de nouveaux festivals qui sont nés, qui se font une spécialité de faire du rock. Fait que le FEQ, peut-être qu'ils sentent moins le besoin de représenter ça. Puis en même temps, on va le dire, c'est vrai que le monde, mettons à Hochelaga, il y a un band rock par année. Là. C'est pas ça qui amène le monde dans les salles. Nous autres, on...
C'est quoi qui fait déplacer le monde dans ça? C'est le country ou c'est...
Ah, oh, ben oui, ça, oui. Okay. Mais non, mais il y a...
La pop, là. La musique.
Ouais, c'est ça.
À poigner à la planche.
Puis regarde, tant mieux si le rap a enfin, mettons, sa notoriété qu'il aurait dû avoir. Puis tout, moi, j'ai rien contre ça. Puis on est content d'avoir notre gang. Quand on va voir des shows, on reconnaît notre public cible, tu sais, là. On n'est pas vraiment connu, mais on est connu dans notre public cible. Ça, je pense, des fois, c'est satisfaisant.
C'est la meilleure chose au monde, ça je pense.
C'est comme, on est comme on est comme les gars du gang show. On est comme juste connu. Juste correct, connu, genre. Dans un public cible, tu sais.
Mais je pense, tu sais, pour vrai, là, tu sais, quand tu commences à tu sais, mettons, soit dans un band ou humoriste, ou tu sais, le but, je pense, c'est jamais de devenir connu de tout le monde, mais tu veux être assez connu de ta crowd que si tu sors un projet, ils vont t'encourager.
C'est ça.
C'est cool que quand tu as un band, puis il y a plein de monde que c'est leur band préféré. Mm. Mettons Primus. Il y a du monde pour qui Primus c'est leur band préféré. Tool. T'sais, c'est des bands cultes. Mm. Mais Primus va faire le Metropolis, ils ne font pas le Centre Bell. Mais ils vont remplir 2500 personnes par soir de fidèles. T'sais. Puis à chaque fois qu'ils sortent un album, ils sont c'est une belle carrière, je trouve. Des bands comme Clutch, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un public solide, fidèle. Puis la même chose peut être dit de Grimmscum et Groovy. Mm. On a un fanbase solide depuis 30-35 ans. Ouais. Castor, les couples qui se sont formés à Woodstock en Beauce, il y a 15 ans, sont encore ensemble. Là, ils ont perdu de vue pendant 10 ans. Là, ils reviennent avec la famille. C'est parce qu'on fait de la merch pour kids, tu sais.
Ah ouais?
Les couples sont encore ensemble, fait qu'ils sont unis par la musique qu'ils aiment écouter. Puis là, les kids n'ont pas le choix d'écouter ça.
Parce que, toi, ça doit être... c'est clair que le monde amène leur enfant, tu sais, parce que là, leurs enfants sont assez vieux pour aimer le rock.
Ouais, c'est ça. Puis ils ont les écouteurs, puis des fois, tu sais, après le show, les kids, ils passent ça dans la face, commencent à être fatigués, là. J'adore ça.
Mais ceux qui ont. Il y en a qui ont un certain âge qui baillent aussi, des fois, maintenant, en soirée, quand les shows durent longtemps, puis il y a 6-7 bandes, là. On en voit bailler une coupe.
Mais c'est vraiment cool, puis après ça, les photos, puis là, tu sais, les parents scorent des points rock forts, là, quand ils amènent les enfants, puis tu prends le temps de donner un pic, signer un autographe, puis prendre une photo en famille. C'est vraiment cool, en fait.
Mais il y a un concept simple qui dit qu'il faut que tu aies 1000 fans. Tu n'as pas besoin de plus que 1000 fans. Puis ça, là, ça se calcule facile. Là. Mettons, les gens ils vont mettre en général à peu près 1000$ en musique par année, en culture de toutes sortes de façons différentes. Fait que calcule 1000 personnes fois 100$ investies sur ton band, tu es correct. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les fans, mais tu as besoin d'avoir 1000 bons fans. Comme par exemple, nous autres, on a un Patreon, puis c'est comme ça qu'on commence à calculer si on a des bons fans. Qui nous suit, qui va embarquer dans toutes nos affaires.
Moi, le problème de mon Patreon, ça m'en prend plus vu que c'est des sans-abri. Fait que là. Ça me prend 10 000 Patreons pour arriver.
Ah, si tu m'as fait rire avec ça. Moi, j'ai appelé dans le centre-sud, tu sais. Puis, il y en a du monde dans la rue qui est « Hey, Groovy! » Oh, salut, man. Oh oui! Aïe, aïe!
Mais j'aime ça, la théorie de 1000 personnes, tu sais.
Mais surtout, comme c'est parce que les bands, ils visent partout. Là. Combien de fois que... Des fois, je donne de la formation en industrie de la musique, il y a du monde qui sont comme... Je chante en anglais, ça m'a donné un plus gros public. T'es comme, man, c'est parce que si tu vises tout le monde, tu vises personne.
Ben ouais.
Tu sais, je veux dire, pour Groovy, moi, le kid de 14-15 ans qui voit ses premiers shows de Groovy, pour moi, ça c'est un culte. Mm. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, je suis un vrai fan, puis je connais tout de Groovy, puis je les suis toute ma vie, puis j'en connais beaucoup comme moi qui ont fait la même affaire. Bon, moi, je suis chanceux, je me ramasse à travailler avec le band aujourd'hui, mais les gens avec qui je parle, ils me disent ça, tu travailles Groovy, c'est malade, je suis comme, c'est ça. On est restés des vrais fans depuis le début, on capote. Ils pourraient sortir des mauvaises tunes, on est comme, ouais, mais c'est quand même bon. T'sais, on va tout excuser. On va tout excuser tout le temps.
Je me serais pas forcé autant.
Non, c'est ça. Mais c'est ça. Avoir 1000 vrais fans, ça change tout.
J'ai vu Green Day avant les fêtes, tu sais, puis leur nouveau stock était je tripais pas, tu sais. Ouais. Mais j'étais comme, Chris, j'aime le band, tu sais. Fait que j'ai, tu sais, j'étais aussi content d'entendre leur nouveau stock que leur vieux stock.
Mais c'est parce que des fois, les bands aussi, ils essayent tellement de plaire à tout le monde que ça goûte rien. Puis dans la musique rock, s'il y a bien quelque chose que tu es supposé d'avoir toute ton identité dedans, puis tu es supposé de puer le rock, c'est bien là. Fait que si tu essaies de tout faire quelque chose que tout le monde va aimer...
Oui, il n'y a rien de pire qu'une rockstar qui essaie d'être aimée. Tu sais, une rockstar est supposée de s'en calisser, puis de pisser dans son lit d'hôtel, puis de se battre.
Pas besoin d'être rockstar pour ça. Là, mais, ouais, ça paraît quand le monde se force un peu trop. Là. Puis, tu sais, ce que je trouve cool, la scène aujourd'hui, puis je parle des kids, parce que, mettons, ils ont 20 ans, mais tu sais, la deuxième génération, astic, ils sont bons. Il y a des bands, ils sont débiles, les artistes sont incroyables. J'ai été juste au Francouverte sur plusieurs années, puis tu t'es vu arriver année après année. Ils ont tellement de maturité musicale que nous, on n'avait pas à cet âge-là. Ouais. Mais ils savent très bien que ça va être tough, ou quasiment impossible d'en vivre. Mais ils le font pareil. Mm. Ils le font pour les bonnes raisons. Oh, parce qu'ils ont de quoi sortir. Il faut que ça sorte, puis c'est eux autres, c'est le même qui s'expriment.
C'est tout le temps ça, les meilleurs artistes. Par exemple, ceux que tu leur dis, hey, probablement tu vivras jamais de ça, mais ils le font pareil. Ouais, ouais. Fait qu'ils font pas des compromis. T'sais, pourquoi tu ferais un compromis si tu vivras pas de ça? Anyway.
Man, nous autres, ça nous a pris du temps à réaliser qu'on pouvait chanter en français parce qu'on visait l'international. Puis tout le monde visait le UK, tout le monde visait les États. Mais à un moment donné, tu réalises, y en a-tu des bandes aux États, y en a-tu des bandes au UK, puis ça vaut-tu la peine, tu sais? Puis à un moment donné, nous, on a fait le virage francophone en 91-12 quand j'ai écrit, y a-tu quelqu'un? Puis écrit en joual, puis on peut célébrer le joual, parce qu'on. La première fois qu'on est allé en France, on a réalisé que le monde ne comprenait rien quand on parle français. Mm. Puis c'est qu'on parle bizarre comparé aux Français, tu sais? Puis c'est normal, puis ça ne rend pas compte à un moment donné, parce que. T'sais, en ce moment, je parlerais, puis il y a bien des Français qui n'ont aucune idée de comment je parle, parce que je parle vite, puis je coupe les coins ronds, tu sais? Je parle en lettres attachées. Mais tu fais, qu'est-ce qu'on a une façon de parler qui est vraiment unique à nous autres, qui nous appartient, puis ça marche dans l'humour, ça marche en musique, ça marche avec moi, j'ai conversé avec Tremblay, puis Charlebois, puis Forestier. Fait que quand j'écoutais Charlebois, Forestier, le premier album, en 68, puis Lindbergh, puis la marche du président, je dis, man, il y a de quoi célébrer là-dedans, tu sais. Et il n'y avait pas de band qui l'avait fait comme ça encore. T'avais Banlieue Rouge, mais avec Safouane qui parlait plus en français parce que
c'était plus franchouillard.
Il arrivait avec lui, son idole, c'est Birurier Noir, fait qu'il était plus influencé vers le punk français. Puis on est arrivé à dire OK, on va célébrer notre joie. Y a-tu quelqu'un avec des cas, puis y a-tu quelqu'un qui a un problème? Des phrases fortes que le monde peut, auxquelles ils peuvent s'identifier. Là, tout d'un coup, ça a tout changé parce que le monde était capable de s'identifier aux paroles de notre band. Fait qu'on a fait un virage francophone en se disant pourquoi pas? Rester au Québec, ça peut marcher pareil.
Toi, t'es-tu un gars de la Rive-Sud? T'as-tu grandi sur la Rive-Sud? À Longueuil, hein?
Ben, je suis né à Belleuil.
OK.
Ouais, puis j'ai fait mon cégep à Longueuil.
Belleuil, ça fait moins punk. Mais Longueuil! c'est ça, je viens de Saint-Lambert.
Ben, il y avait un guitariste qui venait de Saint-Lambert. Tu sais, c'était Brassard, Saint-Lambert, Belleuil. Il n'y avait rien de punk là. Mais on s'est fait longueuiller assez vite, puis on est devenu comme la maison de jeunes de Longueuil, parce qu'il y avait tellement rien qui se passait culturellement et musicalement dans cette ville-là qu'on a ouvert des jams du vendredi soir.
OK.
On invitait toute la communauté de jeunes qui n'avaient pas de place à aller, à venir chez nous. On vendait de la bière à 2$, on payait notre loyer avec ça, puis on a transformé un 6,5 en notre appartement, puis le 3,5 à côté en local de pratique. Puis ça, c'est au coin de chemin Chambly puis Briggs.
OK.
C'est l'enceinte des Light Donuts. Et c'est devenu...
La police vous faisait-tu chier?
Premier jam qu'on a fait, on a oublié de fermer les fenêtres. La police est rentrée. Ils ont fait « Qu'est-ce qui se passe ici? » Ils ont été très cool parce qu'ils ont vu, ils reconnaissaient des jeunes qui étaient là. Lui, je l'ai vu dans un parc, lui, je l'ai vu là. Il dit « Il aimait ça que tout le monde soit concentré chez nous. » Puis il dit, à place de mettre ça à 11, mettez ça à 10.
C'est comme une agence d'escorte qui sort les pubs de la rue. T'sais?
On a sauvé une coupe, mon mec! Mais la police, ils nous aimaient bien parce que ils ont juste fermé les fenêtres quand vous jammez parce qu'on n'y avait pas pensé. Puis, man, on était là 6 ans de temps.
Qu'est-ce qu'ils sont cool, la police de Longueuil, de juste... C'était ça l'avertissement de « Hey, fermez les fenêtres, les gars! »
Puis, tu sais, il y avait du respect dans ce place-là. Il y a beaucoup de filles. Puis là, c'est le début du cégep pour nous autres. Fait que, tu sais, il y avait vraiment une ambiance de communion. Puis d'insertion, puis que tout le monde avait sa place dans ce local-là. Donc, il y avait des kids de 16 ans, ils venaient en gang, 10-12 de Boucherville, ils arrivaient en boss, puis ils repartaient en boss.
Comment ça marchait? Pas? Est-ce que j'ai des questions techniques? Là?
Le punch que tu servais au monde, il était-tu empoisonné? C'était-tu un culte, cette affaire-là?
Comment ça marchait pour la bière? Tu sais, vu que vous alliez au dépanneur acheter, mettons, ou Maxi, mettons, ou 15, au Super 15, 24, C. Chose de même, ouais. Vous devez aller au Super C ou Maxi pour sauver...
C'était la maisonnée qui était... Ouais, ben, on avait le IGA en face de nous autres, là, okay. À Place Longueuil. Oui, on faisait ça exactement de même. En canette aussi, pour, on voulait, sans canette, on ne voulait pas qu'il y ait du verre pété partout. Et, ben écoute, les kids, eux autres, il n'y avait pas une scène, puis ils n'osaient pas... Parce que le bar était dans le 6,5. On vendait pas la bière dans le local.
OK.
Fait que le local, c'était comme le club, si tu veux, avec des lumières. Là, tout arrangé ça, que ça soit vraiment
fait
beau.
Fait qu'il fallait aller dans votre appart.
Fallait que t'aies dans l'appart. Les kids étaient trop gênés pour aller dans notre appart. Ils savaient que c'était, genre, hors...
C'est ça qui est cool, par exemple. Pour vrai, là, tu sais, quand tu regardes, tu sais, c'est tous des jeunes punks. Puis c'est respectueux, des jeunes punks. Tu sais, souvent, là, mettons, tu sais, le monsieur, madame, tout le monde voit des punks qui font « Ah, Chris, c'est des petits bums ». Mais la plupart, c'est du monde super respectueux.
T'as totalement raison, mon gars. On parlait des shows du mois de mai. Nous autres, on va jouer avec un band qui s'appelle Les Ordures Ioniques. Puis c'est Luc Boucher, c'est un vrai de vrai punk. Il a le Mohawk depuis qu'il est tout jeune. Ouais. Puis tu sais, si ce gars-là, il travaillera jamais d'une banque, puis il doit se faire encore écœurer, puis, ou se faire juger du moins. Mais c'est le gars le plus cool au monde. Ouais. C'est un gars fidèle. Quatre cliches, toute cette gang-là. Là. Les punks et les métallos en général, t'auras jamais de problème avec ce monde-là. Mm. Les métalleux.
On est souvent des nerds en plus. C'est ça quand même, c'est que la plupart des gens qui sont dans notre milieu, c'est des nerds. Fait que le préjugé, là, tu sais, c'est le punk, c'est un, ça fait peur au monde parce qu'ils reconnaissent pas.
Tu le vois, même pour les hair bands un peu glam, là. Tu sais, quand tu regardes, mettons, les vidéos de Dee Snider qui parlait au Congrès américain,
ouais,
quand tu l'écoutes parler, tu fais OK, ce dude-là. C'est juste, c'est un nerd, c'est un gars très intelligent qui aime lire puis qui aime le côté théâtral d'être une rockstar.
Ah, c'est des gars smart, là. Le gars de Bad Religion, lui aussi, il a un doctorat. Il y en a plein, là, des gens connus dans le punk rock. Le chanteur de Offspring aussi, il a un doctorat.
Ils doivent se sentir mal, les épais, dans le punk rock. Tu sais, qu'ils font comme Chris, lui, c'est un docteur, lui, c'est un Chris. Moi, j'ai ma deuxième année.
Il y a une affaire qui a changé. En fait, ce qui donnait une mauvaise réputation au punk, surtout, c'était la mauvaise dope. Tu sais, c'est le PCP qui était, dans le fond, la dope de cheval. Les autres, vu que ça coûtait rien, ils se défonçaient là-dessus. Puis le monde n'était plus qu'à te parler. Fait qu'il avait l'air un peu cave. Tu sais. Fait que là, depuis que le weed est arrivé, là, plusieurs, mettons, 30 ans déjà, c'était plus réfléchi. Le monde, il se pétait moins à la tête ses murs parce qu'il n'y a plus de fonction motrice. Fait que la dope, ça a ravagé bien du monde. T'sais. Puis une des raisons pour laquelle Grimmskunk a un truc qui s'appelle PCP, c'est problème de consommation personnelle. Parce que ça devenait un problème dans notre crowd. Il y avait trop de mauvaise dope. Le monde ne savait plus ce qu'il faisait. Puis ça pitch sur stage, ça te ramène en bas. Ça déploque les fils de tes affaires. C'est juste cave. T'sais.
Okay.
Puis ça, c'était la dope. Au Québec, c'était vraiment un problème à ce moment-là. Fait que quand ça a été éliminé, tout d'un coup, ils sont restés punk, mais pour les bonnes raisons. T'sais. Juste parce qu'ils veulent affirmer leur différence par rapport à la société.
C'est facile d'avoir les métalleux de mon temps, là. Tout le monde pensait que ça allait tout devenir des tueurs en série. Puis Chris, tout du monde qui collectionne des Funko Pop. Là, là, c'est les gars les
c'est
plus
C'est tous des furies maintenant.
Oui, c'est ça.
Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Ouais, ils collectionnent les bobbleheads d'horreur. Puis ils sont nerds à l'heure. Ils écoutent du Meshuggah bien tranquille. Puis ils trippent.
Ça calcule en mathématiques, Meshuggah. Ça se dit, là, c'est tout là, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2.
Ben, il faut être bon musicien pour aimer pour faire du métal, surtout le métal extrême, tu sais, comme des affaires comme justement Meshuggah, puis tout, tu fais tabarnak, c'est tough, là, tout le mastodon, ces bandes-là. Faut que tu sois vraiment bon.
C'est surtout que le préjugé de, mettons, les punks, là, bon, là, c'est des tout croches. On s'entend-tu dire qu'il y a des gens qui sont des adultes, là, puis sont avocats, que c'est des tabarnaks, là, tu sais, là, je veux dire. C'est moi ou bien, genre, c'est facile de pointer du doigt la personne qui a de l'air un peu en marge, mais les plus douches, là, sont souvent pas les punks.
Mais tu sais, comme moi tu sais, pour l'humour, dans le temps que je commençais, tu sais, tout le monde faisait « Hey, t'es une mauvaise personne parce que tu sacres, t'es vulgaire. » Puis là, tu sais, du côté anglais, c'est comme, tu sais, Bill Cosby, c'était la référence. Mais les tueurs en série, les violeurs en série, en général, ils ont de l'air très normal pour passer incognito. Toi, avec tes cheveux, tu peux violer personne, là, tu sais. Tu serais trop facile à repérer après. Imagine si si tu volais un dépanneur, te fais pogner en 3 secondes.
C'est ça.
Il est où?
Il est là. Il est caché. Tu vois l'arbre, le buisson vert, bleu. C'est ça, là.
C'est hot. C'est hot. Ouais, je pourrais pas m'en sortir, ben, ben.
Violator.
C'est ça. Ouais.
Ben, effectivement. Puis, quand t'es métalleux ou t'es punk rocker, pour vrai, c'est un style de musique que tu gardes toute la vie. Il n'y a pas de... Tu sais, je sais pas si c'est Rob Zombie qui disait, j'ai jamais vu quelqu'un un été comme se graver Slayer sur l'avant-bras, mais l'année d'après, il n'a plus écouté ça.
Ouais, ouais.
Tu tripes Slayer ou tu tripes pas Slayer?
Il y a de quoi de le fun de voir des... Quand tu vas à des shows de des vieux, vieux bands, tu sais, mettons, de 70 ans, puis tu vois leurs fans que c'est tout des... Tu sais, des métalleux de 70 ans, ils sont le fun à voir.
C'est vrai qu'ils sont le fun. Moi, j'ai commencé à voir les têtes blanches au 30e anniversaire de Rush, au Forum. Puis ce monde-là, puis Rush, ils font des chandails de hockey qui vendent 140$, genre. Puis tout le monde en a acheté un, tu sais. Ouais. Parce que là, tu deals avec des gens qui ont du cash. Puis d'un coup, tu sais, le Rush, ils ont bouché les 10 premières années, mais à un moment donné, ils ont fait... Les fans, ils ont grandi avec eux autres, ils ont tous des bons jobs, ils sont peut-être même à retraite, puis ils ont du cash à l'os, puis ils peuvent aller voir Rush 6 fois dans le tournée s'ils veulent. Ils peuvent acheter toute la merch qu'ils veulent. C'est tout à l'honneur d'un band qui a bouché si longtemps, puis qui a tenu ses fans en vie et tout ce temps-là. T'sais.
Mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, en fait, les radios parlent du Nirvana. C'est parce que les fans avant de Nirvana, c'était des jeunes, puis ça rapportait pas. Fait que là, on se faisait dire, ah, c'est pas cette musique-là. Mais aujourd'hui, ils parlent du Nirvana, pourquoi? Parce que les kids de l'époque, aujourd'hui, ben ils s'achètent des pick-up, puis ça rapporte du cash. Fait que là, tu n'entends de la musique plus élevée dans les radios commerciales, mais c'est parce que c'est ça, le temps a changé, puis les préjugés ont changé aussi.
Puis, y a-tu. Mais je veux juste dire une chose. Tu sais, les plus vieux bands. Je suis allé voir Metallica avec mon frère il y a une couple de mois. On est allé à Phoenix parce que lui, il est dans l'Ouest canadien. Fait que c'était plus simple de se rencontrer à Phoenix. Fait que c'était moi et ses chums à lui. Tu sais, fait qu'on est quatre gars dans la cinquantaine. Puis, le lendemain. Mon frère et ses trois chums avaient tous des torticolis parce que c'est des gars de 54 ans qui ont headbangé pendant comme... C'était tellement drôle. Le lendemain, ils se lèvent, ils sont tous comme... Ouais, c'est cool, là, le show hier!
Hey man, je me réveille raqué après un show de Groovy ou de Grimmskunk à cette heure, que c'était pas le cas
mais
avant.
Mais toi,
là.
En plus, quand tu chantes, puis quand tu chantes pas, mais tu joues de la basse, t'as de l'air tout le temps, asti. T'es tout le temps. On dirait que tu vas te faire du karaté. Ouais, t'as de l'air. Mais t'es très Karate Kid.
Check
là,
mes spacks, là.
Et pourtant, Vincent, c'est un génie, là, je veux dire. À l'âge qu'il a, sa voix est meilleure que tous les chanteurs qu'on connaît, là. OK? C'est pas quelqu'un qui en perd avec l'âge, c'est quelqu'un qui en gagne. C'est incroyable. Sa performance live, sa voix, je fais pas juste te lancer des fleurs. Moi, je l'ai vu, là, puis je me dis, je vois les Sandmen faire son. Ils sont tout le temps comme tabarnak, là, tu sais, comme professionnel. Fait que sa position, sa posture, sa façon de jouer, tout dans l'efficacité. Puis le show de Groovy va tout le temps être le show le plus dread de la soirée. Sans aucun doute. Les gars, c'est des machines.
T'as-tu des cours de voix ou du training?
Ben, quand je suis au cégep, j'ai pris des cours de voix.
Okay.
Là, quelques années, quand on est revenu pour faire notre 30e anniversaire, j'ai pris des cours de ma prof de chant que j'avais rencontré au cégep, Hélène Parent.
Hélène Parent?
Oui.
Qui a été parent comme lui, mais Hélène Parent qui était prof de voix à l'école du Mont.
C'est ça.
La grande rousse, voilà.
Oui. Elle, j'ai lu en 85.
OK.
Quand je commençais. Puis, j'ai vu qu'elle faisait encore ça. En fait, comment acheter.
En 85, elle faisait ça.
Oui, elle faisait ça au cégep. C'est la prof de
voix.
Chris,
elle a 109 ans.
C'est ça, j'en ai pas.
Et, fait que j'ai pris des cours. Puis, ma copine Morena était prof de yoga aussi. Puis, j'ai réalisé que c'est bien, ça se ressemble énormément. C'est beaucoup de posture de yoga. Ouais. C'est une question de.
Respiration.
De respiration, puis de ton diaphragme.
Pourquoi que en vieillissant, les vieux chanteurs, vieilles chanteuses, perdent leur voix? C'est juste que le muscle...
Je pense qu'il n'y a personne qui a les mêmes cordes vocales d'un à l'autre. Ton système, il est différent d'un à l'autre. Fait que je pense pas qu'il y ait d'explication claire.
Tu as raison que des fois, on les voit, puis on dit, ah, tu sais, ils sont obligés de jouer la toune un ton plus bas parce qu'ils n'arrivent pas à faire les notes qu'ils faisaient.
Tu sais, comme Ginette, Ginette Renaud a une crise de voix, mais quand elle chante à cette heure, tu sens qu'elle est très...
Ouais, c'est ça.
Tu sais, tu sens que c'est comme un char que... Ah ouais, câlisse, là. Ah ouais.
sais.
Ben, Axl Rose, ah, Axl Rose qui chante comme Mickey Mouse, là.
Ah, ouais.
Tu sais, je sais pas si t'as vu les vidéos.
J'ai pas vu, Axl Rose,
toutes les vidéos de lui sur Internet, c'est on dirait Mickey Mouse.
Ah, ouais.
C'est malade, là. Fait qu'il protège sa voix, en fait. Fait qu'au lieu de la pousser, il fait juste comme un peu chanter dans sa tête.
Ah,
là.
Fait qu'il fait comme moi, comme
ça. C'est ça, exactement.
Ah, ouais.
Exactement ça.
Ah, wow.
Allez toutes sur Internet voir Axl Rose, Mickey Mouse, c'est malade.
C'est des mécanismes de défense. Si t'es pour faire 60 shows en quelques mois, puis ce gars-là, ben, il n'a plus l'âge qu'il a, puis avec l'abus qu'il a fait, tout ça, il n'est plus capable de pousser comme avant. Fait qu'il y a des techniques qui font que tu as un filet de voix au lieu d'avoir toute ta gorge déployée. Galilée de Rush, il n'a plus la même voix. Elle n'était pas aussi puissante qu'avant. Mais il chante bien, puis il l'explique dans son livre que je viens de finir, que c'est des techniques vocales, parce que lui, il fait des shows 3 heures. Il arrive à ce là, ils ont arrêté. Mathieu, il était jusqu'à 65 ans, il faisait ça. 3 heures de show, c'est débile, tu sais.
Mais pis... Paul McCartney, 3 heures, par exemple, lui, sa voix est tête. C'est, que tu sais, c'est pas tout le monde qui vieillit qui arrive à 82 et qui n'a plus de voix.
Il y a-tu 82 à
ça? Genre, à peu de 83.
Puis chante beau, ce gars-là.
J'ai vu un extrait de lui l'autre fois sur YouTube, puis j'ai vraiment fait tabarnak. Chris, c'est le gars qui a amené le rock'n'roll au grand public.
Il fait des nouveaux albums. Là. Il a fait un nouvel album. Là. Personne ne l'écoutait, mais je veux dire...
On va découvrir, on va découvrir que c'est un vampire.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais.
Ben, il y en a Ozzy. Ça fait longtemps qu'il est là.
Ah ouais.
C'est quasi. Ça commence en 68. Ah, puis c'est un qui ne s'est pas ménagé, c'est bien lui.
C'est sûr.
Puis y a-tu... Ozzy, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu... chanter.
Ben là, il a pris sa retraite, hein, parce qu'il s'est pété à elle souvent avec son 3 roues, entre autres, puis là, il ne peut plus le faire.
Moi, j'ai eu mon...
Ce qu'il a raté, c'est pas qu'il mangeait des choses sourires, c'est les 3 roues.
J'ai eu mon gérant avait été voir... mon gérant, Michel, il aime beaucoup Phil Collins, ou il aimait beaucoup Phil Collins, puis il avait été voir Phil Collins au Centre Bell, puis il m'avait texté pendant le show, puis il avait fait show de Phil Collins, j'étais comme, c'était comment? Puis il a fait, je suis vraiment triste, tu sais. Que c'est juste un vieux monsieur à moitié mort.
Ben, oui, je sais, que... j'étais là, c'était Genesis, en fait.
OK.
Ouais. Puis toutes les tonnes, ils ont pris au moins un ton et demi plus bas. Puis ça s'entend tout de suite.
Il est assis tout le long.
Assis, il est chétif, il a fait un petit peu de tambourine, mais ça faisait du
C'est-tu
petit.
Voulu ou ils ont juste mis une tambourine dans les mains?
Ouais, ben ça,
il était comme... non!
Parce qu'il est Parkinson, c'est...
Pauvre
je faisais du call and sin, pauvre gars. Ouais, ouais, c'est ça. C'était pas tout le temps sur le beat, mais l'important, c'est de participer.
À un moment donné, il faisait du breakdance. Ils l'ont remis dans sa chaise.
C'est vrai que c'était triste.
Ah ouais.
Mais
ça prend du courage à remonter sa scène dans cet âge-là, mais c'est vrai que bon, malheureusement, les fans ne sont pas servis. Puis le monde sort de là un peu déçu. Je pense pas
mais
que c'est ça qu'ils veulent.
Tu sais, comme, mettons... Ça dépend de l'âge des fans. Tu sais, comme Michel, vu qu'il était un des jeunes fans de Genesis, lui, il était comme, qu'est-ce qui est arrivé? Mais je suis sûr que les fans de, mettons, 80, 90 ans étaient... Tu sais, moi, j'avais été voir un show d'humour un moment donné avec mon père d'un vieil humoriste, puis c'était dégueulasse. Puis mon père était... Il était comme, c'est incroyable.
Ouais.
C'est incroyable. Ce monsieur-là, il parle dans le micro encore. Il se rappelle de regarder le public.
Mais là, je sais pas si tu as vu ça passer, mais il y a eu une émission de télé récemment où il a invité le chanteur des Classelles à venir faire un show.
Gilles Gérard.
Puis là,
Gilles Gérard doit avoir 9000 ans.
C'est ça. Puis là, ils l'ont déguisé en gars de Kiss. Puis là, ils ont demandé de chanter. Puis là, j'en regardais ça, puis il y avait un fond de tristesse. Quand j'en regardais ça, je me disais, c'est parce que il a de l'air un peu mêlé. Tu sais, il est comme, qu'est-ce que je fais ici déguisé en Kiss? Ma carrière, c'était ça. Puis là, tu vois les choristes de l'émission.
Il essayait-tu de se démaquiller en faisant?
Il était pas en chat. Mais je regardais ça, puis je me disais, il y a une portion de nous qui est comme, on est content de les voir, tu sais, la nostalgie. Mais un autre côté, tu vois les choristes venir...
Ouais.
L'accompagner, puis c'était comme pour petit garçon. Puis là, j'étais comme, hey, faites pas ça. Je sais pas sûr.
Ah ouais.
Pas sûr que c'est une bonne idée. Lui, il est pas petit, il avait de l'air mêlé. C'était une émission où il disait de chanter une chanson karaoké qu'il connaît pas.
OK.
Fait que là, il a de l'air mêlé, il lit les textes. Là. C'est pas le fun pour lui. Là.
Ah non, hey, ça, fais pas ça, une personne âgée.
Fais pas ça. Il va mourir, là.
Ah ouais.
Ça marche pas, ça. C'est pas un bon show.
Lui, par exemple, ça a de l'air. J'avais fait une couple de shows avec lui à l'époque, puis il est très trooper. Lui, là, je suis sûr, le téléphone sonne, puis il demande même pas c'est quoi le projet. Il fait « J'embarque!
Ouais, » c'est ça.
Puis
j'ai mon maquillage.
Tu sais, moi, un moment donné, j'avais fait un show avec à Juste pour rire, puis un moment donné, il y avait quelqu'un qui a dit « Ouais, on n'aura pas le temps de souper entre la répète, puis le show, il faudrait que quelqu'un aille chercher de la bouffe. » Puis lui, il n'a même pas offert, puis ils ont fait « Gilles, va. Puis là, là, il était comme, là, il prenait nos commandes. Puis j'étais comme, tabarnak, ce monsieur-là, il avait à l'époque, mettons, 75 ans. Mm. Puis il prenait mes. Là, j'étais comme, monsieur Chris.
Ben ouais,
là,
non, c'est ça, c'est ça.
Tu pourrais dire non, tu sais.
C'est vraiment une légende. Il y a, je ne sais pas si tu viens de ça, Vincent. Il y a un documentaire qui s'appelait « Connaître la suite » qui est sorti dans les années 90, qui était une réponse à un autre documentaire qui avait existé pour les années yéyé. Puis lui, il était là-dedans, dans le documentaire des années yéyé. Okay. Puis là, ben, c'était comme à l'époque, c'était eux autres, les bands cool. C'était comme le documentaire des bands cool. Okay? Okay. Puis là, ils ont fait une version 2 qui était « Connaître la suite ». Puis là, c'était Vincent. Tu vois Vincent, jeune Vincent. Puis là, ils parlent de la musique rock. Puis à un moment donné, ils disent dans les entrevues, ben, tu sais, ceux qui fumaient du pot avant, c'est eux qui nous arrêtent maintenant. Bon, il y a eu comme un changement de. Mais lui, là, il faisait partie du premier documentaire des années 60. Il est encore là aujourd'hui à la télé en déguisant Kiss. C'est malade, là. C'est comme, toi, t'es rendu à l'âge que lui, il avait dans ce documentaire-là à l'époque. Mais lui, il est là. Lui, il est partant. Il va chercher des poutines pour le monde. C'était incroyable. Incroyable. Et comme Paul McCartney, il ne va jamais arrêter.
Ce monsieur-là, il doit vivre dans une résidence, j'imagine.
Ah, shit.
Ça doit être weird, tu sais, de...
Il vit dans une loge. Ouais. Une loge perpétuelle.
Ouais, peut-être.
Il attend. Il est prêt.
Mais tu sais, ça me fascine tout le temps, ce monde-là, tu sais, qui font ça jusqu'à temps, jusqu'à la fin.
Ben oui.
Que je pense que tout le monde veut faire ça, là, tu sais. Vu que, tu sais, nos jobs, c'est une job, mais c'est un hobby, là, tu sais, aussi. Mais... ça doit être weird pour les autres que sont comme « Yo, Gilles, on allait jouer au Parchisi. Ah, Chris, il est à Fureur. » Tu sais, je sais pas c'est quoi la nouvelle Fureur. Là, le Zénith. Ben ouais.
Ah ouais, c'est ça.
Mais tant mieux pour lui parce que lui, il a quand même vécu le rêve. Il a été chanceux d'avoir ses tunes. Moi, je trouve que lui, c'est un vrai punk. Là, quand tu penses à ça, là, il a fait ça toute sa vie. Il s'est pas trouvé d'excuses. C'est malade. Moi, je veux être ça. Moi, je veux être ce dude-là.
Puis il avait toute qu'une voix aussi. Là.
Ah oui, c'est ça. Début.
Moi, je veux te voir, toi, un show télé en 2071 avec trois poils sur la tête, mais tout bleu. C'est juste... T'es habillé en bleu.
Je lâche pas.
Un peu mêlé.
J'ai une gimmick, je la garde. Écoute, moi, parlant de gimmick...
Tu chantes du K-pop, c'est du karaoké. Tu comprends pas.
Avec un sac à dos, juste pour référence à l'extérieur dans le temps. Parce que c'est ça, moi, à l'époque, dans l'extérieur, je portais un sac à dos dans mes shows. Okay. Je m'en fais encore parler aujourd'hui.
Okay.
Il est où ton sac à dos? Tu sais, c'est comme, tu gardes une gimmick 5 ans, le monde, ils sont pognés là-dessus.
Je veux pas t'insulter, mais quelle mauvaise gimmick.
Alors,
un sac à... Ça doit être le genre de gimmick que quand tu réalises, ça pogne, t'es comme... Je suis pogné avec ça.
Non, c'était malade. Moi, je pensais
à Angus Young. Tu sais. Ah ouais, CDC, ils sont sacadés de toute leur sac d'école.
Chris qui est déguisé en enfant.
Ouais, c'est ça, il y a 70, puis il faut qu'il mette son
son. Il avait 14 ans quand il a commencé ça.
Ah
oui, c'est ça.
Ah
oui,
ça, c'est la pire. Ah, pauvre lui.
Ben ouais, ça a fait l'image du band.
En même temps, on en parle ce soir, il avait raison. Tu sais, il avait raison de faire ça. Le sac à dos, à l'époque, c'était une idée un peu comme ça, comme « OK, moi, je vais faire ça ». Là, encore aujourd'hui, le monde sont comme « Hey, ton sac à dos, il est où? »
Ah ouais. Moi, j'avais 15 ans, dans le temps, je commençais à ben, je faisais déjà 10 ans que je faisais de l'humour, mais je commençais à rentrer dans le niveau que les producteurs voulaient me signer. Et il y avait, c'était dans les années que le rapper Nelly était populaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez Nelly, qui avait comme un tape ici. Puis mon producteur de l'époque avait dit à Pierre Prince, il avait dit, tu devrais te mettre un tape toi aussi.
C'est bon.
Parce qu'il avait dit, tu sais, Mike, c'est le gars élevé. Toi, on n'est pas sûr, t'es quoi. Tu vas être le gars avec le tape.
Incroyable.
Puis là, je voyais Pierre regarder et faire comme, voyons, tabarnak, quel mauvais.
Hey, j'avais eu ce feeling-là avec Antoine Graton au début, quand j'ai connu. Parce que lui, c'était une étoile.
Ben oui,
Il est bon, ce gars-là. Puis, musicalement, c'est un génie. Puis, il n'a pas besoin de l'étoile. Puis, à un moment, il est resté un peu poigné avec aussi. Fait que la gimmick a un peu dépassé l'artiste, je trouvais. À un moment, il l'a enlevé. Il était temps, tu sais. Parce que tu fais ça au début, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Il n'y a personne qui, je pense, qui te demande
mais
de faire ça.
Mais je pense que c'est toi, dans ta tête.
Il voulait faire
dis,
de quoi de cool.
Faut que je fasse ça.
Je vais être Ziggy Stardust, je vais être Bowie, quelque chose de même. C'est trippant, mais t'es assume. T'sais, faut ça va te suivre plus longtemps que tu veux.
Toi, t'es-tu tanné des cheveux bleus ou t'es-tu... Tu sais, c'est depuis 2015.
Ouais.
Fait que là puis c'est, tu sais, je l'avais dit en haut. Tu sais, moi, j'ai eu les cheveux bleus 2 ans, puis le monde m'en a parlé pendant 20 ans. Fait que toi, ça va être pour le restant
moi,
de ta vie.
Moi, je suis pas rien que ça. Ben, j'en reviens au sac à dos. Un jour, je l'ai enlevé. Puis le monde, il venait nous voir, puis il venait voir les autres gars du band.
C'est-tu de la teinture dans le sac à dos?
J'étais prêt pour le prochain projet. Non, mais le monde venait voir mon band, puis il disait, pourquoi Jess, il n'a plus son sac à dos? Les gars du band, ils ont dit, s'il te plaît, remets-le, parce qu'on est tanné de répondre à cette question-là. Fait que l'affaire avec les cheveux...
Quelle question absurde pour les autres gars du band.
Les autres sont comme, je m'en torche, mais là, ils ont dit, Jess, remets ton sac à dos, ça va régler le problème. Là, les cheveux bleus, j'imagine que si je les avais plus bleus, là, c'est Alex là, qui serait comme, s'il te plaît. Là, c'est tannant, là, parce que le monde vient me voir pour me poser cette question-là. Mais c'est une gimmick, là, regarde, au début, c'était pour le fun, puis là, ça a resté. Là, maintenant, de loin, hey! Couche pas bien! Pourquoi c'est pas roux?
Oh ouais, non, tout le monde doit demander ça, tu sais. Ah oh ouais. Puis pourquoi c'est pas rouge?
Mon directeur de tournée, Fred, il dit tout le temps. Rouge pompier, c'est pas rouge pompier, c'est bleu. Rouge pompier, c'est bleu. Fait que là, on voit les éclairagistes parce que début de show, ils mettent tout rouge. Non, on change ça, c'est bleu. Pourquoi? C'est ça, c'est ça. Regarde.
Ils pourraient mettre les trocs bleus.
Ben oui, c'est ça, là.
Ce serait malade qu'on apprenne que t'es daltonien. Ça t'a pris un coup que le band, tout.
Ça, c'est bleu!
T'es au lancement. Là, ils ont fait, hey, bleu. Bleu?
Bleu?
Voyons.
C'est malade, ça.
Mais toi qui as une petite base d'allemand, tu sais comment on dit bleu en allemand?
Non, je sais pas.
Bleu!
Hey Yann, y a-tu des questions?
Oui, il y en avait, ça commençait à rentrer.
Parfait.
Ouais, OK, je ne sais pas c'est pour qui. C'est Archie qui demande la compilation Zoo. Les compilations Zoo, c'était qui ça?
Ça, c'est notre label qui fait ça, ouais.
OK, vont-tu être dispo en format physique? Vinyle. Pourquoi sur la dernière compile, il n'y a pas de tune de Slam Chicks?
Ah, OK. C'est bonne question. Mm. Bon, dans le fond, nous autres, on a un label, ça fait 20 ans. Puis là, ça fait 9 ans, 8-9 ans qu'on fait une compilation chaque année qui s'appelle Zoo. Puis là, c'est toutes les bandes qui sont invitées à faire n'importe quelle reprise de n'importe quoi. On leur dit carte blanche. Groovy, c'est les premiers enregistrements de Groovy depuis 2005 sont entre autres sur ces compilations-là.
C'est quel tune que vous avez repris?
On a pris une version francophone de The Devil Went Down to Georgia de Charlie Daniels.
Ouais?
C'est
Martin.
Il l'a rebaptisé Le Diable s'en va à Alma. Okay. Fait qu'il a traduit l'histoire. Okay. La même histoire du diable qui prend un concours de violon contre le petit Johnny.
Okay.
Qui s'appelle Johnny, pour l'occasion, il a gardé le nom. Tu joues au télé, en fait, qui s'appelle. Et si le diable, il gagne, il a ton arme. Si tu gagnes, il te donne son violon d'or. Fait que Martin a fait une petite belle version pendant COVID.
Okay.
Il n'y avait rien de mieux à faire. Fait que les autres, ils nous ont proposé à faire un cover. Il était déjà fait. Ouais. Cette année, on a fait un mash-up entre CPR Blues de Charlebois-Forestier et Stop the Jane's Addiction, qui s'appelle le blues CPR à Jan. Le CPR Blues à Jan. Fait que c'est vraiment un mash-up de Charlebois-68 avec Jane's Addiction 90. Ouais. Ça a été vraiment cool à faire. On a fait ça chez Miss Wood en studio. Puis j'ai écouté... Toi, t'écoutes la compil, tu fais... Toutes les bandes se donnent la peine de faire des covers buzzés dont tu t'attendrais pas à tu sais, genre voyage. C'est une demande.
Ouais, c'est ça.
Waouh, tu sais, je ne savais même pas qu'ils connaissaient cette tune-là.
On mais a des bandes qui sont plus appréciées sur ces compilations-là que leurs propres tunes, des fois. C'est super triste, ça. Parce que tu dis, les bandes, ils ont vraiment, tu sais, c'est des bons bandes, ils ont des albums, mais quand la compilation arrive, tout le monde l'attend. Puis là, tu sais, la hype, elle pogne tout le temps, tout le temps en décembre avant de partir pour les vacances. Puis une compilation maintenant qui fait son chemin, un peu comme les anciennes compilations comme Pollywog à l'époque. T'sais. Quand tu fais ça longtemps, il y a une crédibilité qui s'installe. Puis là, le monde, ils veulent avoir ça en physique. Pour répondre à la question.
C'est Big Shiny Tunes.
C'est ça.
Voyons,
ça marchait.
Chris, ça marchait, Big Shiny Tunes.
À partir du moment où tu dis à quelqu'un qu'il y a quelque chose de fiable pour eux, ils vont s'abonner, ils vont être contents. Ils veulent jamais être les cobayes de quelque chose. Ils veulent pas être cobayes d'un nouveau band, mais ils vont embarquer quand tout le monde en parle.
Fait que physique, ça, est-ce que vous.
On va pas le faire. Parce que quand tu fais une compilation, je ne veux pas rentrer dans les trucs techniques, mais si tu fais printer des versions physiques, il faut que tu envoies de l'argent
les droits
à chaque personne.
Versus
le numérique, ça se fait automatiquement.
Okay.
C'est que quand quelqu'un stream la toune, la part qui va à l'auteur-compositeur est distribuée directement.
Okay.
Fait que la version physique, il faudrait faire des comptes avec chaque personne. Là, c'est compliqué, on fait beaucoup.
Okay.
On fait pas ça.
Fait que dans le fond, t'es le seul propriétaire de label qui, si quelqu'un veut un CD, il se le grave lui-même.
Ben oui.
Ah ouais.
Mais de toute façon, regarde, la compilation est là pour le divertissement, c'est sûr, mais on préfère bien plus faire printer, mettons, les vinyles d'un band original parce que ça a une durée de vie, puis c'est de l'art qui a besoin d'avoir une
priorité. Tu sais, comme la mode des vinyles est revenue il y a une, y a une couple d'années. Puis je pense que c'est là pour durer quand même un bout, vu que c'est un bel objet. CD, cassette, ça va-tu revenir à
ben,
ironiquement?
C'est déjà revenu, dans le sens que les cassettes...
Est-ce-tu ironique ou...
Non, c'est pas ironique. Les cassettes, il y a pas mal un marché pour ça. Il y a du monde qui tripe là-dessus. Par exemple, il y a du monde maintenant... qui cherchent les cassettes de Rouge Pompier qu'on a faites, parce qu'on en a fait des petites batches, puis là, finalement, ils veulent ça. Il y a des magasins de vinyle maintenant qui ont une section cassette.
C'est drôle.
Les CD, c'est un peu en train de revenir, mais la différence, c'est que ça ne va pas avoir tant de valeur. Versus les vinyles, là, bon, l'objet, on en fait imprimer moins. Les CD, il y en avait tellement, ça ne va pas prendre de valeur. Mais par contre, il y a un public pour ça, la fidélité avec, au niveau du son, puis tout. Puis, il y a une nostalgie par rapport à cette pochette-là de CD indifférent de l'autre, du vinyle. Il y a des. Fait qu'il y a un peu ça. Ça existe. Okay. Discog est un genre de site où les gens vont s'acheter des CD version Allemagne de je ne sais pas trop quoi. Il y a un public pour ça.
Puis, pour tes bandes, c'est. Tu sais, mettons, les plateformes de streaming. C'est où que vous autres, vous avez le plus d'argent? Où c'est-tu, c'est minime, tous les gros joueurs?
Je te dirais que, franchement, il n'y a pas une place où ce que tu vas mettre de l'argent, mettons, comme dans les plateformes de streaming ou ces trucs-là, où ce que ça va avoir un impact notable pour un band, ça c'est sûr. Fait que même si je dis que c'est deux fois plus payant à une place qu'à une autre, ce n'est pas vraiment payant. Okay, tu ne vas jamais payer ton loyer avec quoi que ce soit. Aujourd'hui, même à l'époque, les bandes qui vendaient des CD ne payaient pas leur loyer avec leur redevance. Là. Fait que ça n'a pas tant changé que ça. La meilleure façon que le monde peut faire, justement, c'est la merch. C'est sûr que la cote est meilleure pour les bandes. La merch, quand tu vas dans un show, ça aide
merch,
pas mal.
Merch, des billets de spectacle aussi.
C'est ça, évidemment, billets de show.
Quand une de vos tunes joue sur SiriusXM, les droits d'auteur sont bons. Hein, aussi.
Tout le monde ne sait peut-être pas ça, mais SiriusXM, c'est une plateforme où est-ce que les gens ils payent un abonnement avec leur véhicule. Alors, tous les véhicules...
Puis après, ils oublient qu'ils sont abonnés. Puis 4 ans plus tard, ils sont comme... Fuck you, Sirius!
C'est ça. Mais c'est une plateforme qui existe autant aux États-Unis qu'au Canada. Mais les postes qu'on a francophones, ils sont considérés autant pour le Canada que les États-Unis, ce qui fait que tout l'argent des États-Unis se ramasse dans les poches des Québécois. C'est l'affaire qui a changé l'industrie de la musique dans les 15 dernières années. Les artistes, ils peuvent faire là, facilement 30-40$ du spin. Fait que il y a des artistes qui sont...
Ah, oh, tabarnak!
Ouais. Il y a des artistes indépendants, pas signés, qui passent à Sirius, qui ramassent avec des chèques de 10-20-30 000$.
C'est bon.
Ça l'a vraiment... Mais sauf que...
Y a-tu un moyen de... Tu sais, je sais que SiriusXM n'a pas un genre de 6 à 6
non,
que tu
ça.
Peux faire des demandes spéciales. Ouais. Mais j'imagine si tu envoies... si tu bombardes l'Instagram ou le Twitter de SiriusXM, « Hey, jouez Groovy ou jouez
Rouge Pompier. »
C'est
des gens accessibles au Québec qui font la programmation des postes québécois. Fait qu'on est capable d'avoir une certaine influence, mais ils ont un mandat avec des quotas, par exemple, beaucoup d'émergences, des trucs comme ça. Okay. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup les jeunes bandes qui vont passer parce que le mandat est là. Mais ça a vraiment changé notre portrait parce que maintenant...
Il vient-tu te fucker ses chances en disant qu'il y avait 58?
Non, mais je veux dire, il y a quand même, mettons, il y a du Charlebois qui joue aussi, sûr. L'affaire, c'est que les bands aujourd'hui, ils vont dire des phrases magiques comme « Moi, ce que je veux, c'est que je fais une toune pour passer à Sirius. » Là, ils commencent à modifier leur façon de créer en fonction de « passer là ». Puis là, ça, c'est malsain.
C'est quoi tu modifies pour passer à Sirius?
Ben, par exemple, faut que ton, mettons, dans la portion quota émergent, il faut que ton band existe depuis, mettons, moins que 4 ans. Fait que là, ils se partent un band avec un nouveau nom, juste pour pouvoir envoyer une toune puis fitter dans le quota. Mais c'est comme, ils n'ont pas le goût vraiment d'être un artiste, ils ont le goût de faire de l'argent avec Sirius. Puis ça, on le voit beaucoup.
Fait que c'est l'équivalent de faire des pubs pour faire de la musique pour une pub à
radio. Ah oui, nous, il y a des bands qui nous rejoignent pour le label, sont comme, est-ce que vous avez accès à Sirius? C'est comme la première question. Puis là, on est comme, mais moi, je veux plus savoir si tes tunes sont bonnes, en fait, parce que je veux que dans 30 ans, tu sois encore capable de faire de la muse. Là, je veux pas que tu focuses maintenant sur le cash que tu peux faire avec ça. Tant mieux si tu en fais, mais c'est pas ça qui fait que ton band va percer.
Ils doivent pogner de quoi, parce que c'est bon que quelqu'un comme toi ait un label, mais souvent, on pense aux gens des labels qui sont tellement à l'argent que tu ferais comme si quelqu'un qui veut passer à Sirius, parfait, c'est lui que je vais signer en premier.
Ouais. J'ai déjà un gérant d'artiste qui est venu me voir et qui m'a dit, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des artistes qui vont passer à Sirius. Puis moi, j'étais comme, mais oui, mais c'est parce que c'est quoi ta carrière si c'est juste ça ton focus? T'sais, quelle musique que t'aimes? Parle-moi des bandes que t'aimes. Parle-moi des tunes que tu préfères. Non, ça a changé le portrait. C'est un bout de triste, mais c'est normal. Les artistes veulent tellement de la validation et de l'argent parce qu'on en a jamais eu.
C'est le fun que Sirius paye.
Oui, c'est ça. Et on est chanceux que ça existe encore. C'est-à-dire que les lois vont changer. Ça, c'est sûr. Puis à un moment donné, les Américains vont arrêter d'envoyer l'argent ici. Ils vont trouver une solution.
Je sais que Daniel Grenier, l'année qu'il est parti des Chicken Swell puis il a commencé à faire du stand-up tout seul, c'est ça qui a permis de survivre. C'est qu'il y avait une toune qui jouait sur Sirius puis il a reçu un chèque un moment donné de comme 14 000 pièces. Ouais. Ça n'attendait vraiment pas.
Il y a beaucoup d'artistes qui sont surpris par des fois les montants qu'ils vont recevoir. Mais tant mieux, tant mieux. Tu sais, s'il y a des artistes qui ont eu accès à ça, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vrai que là, le monde sont habitués à ça. Si ça disparaît, là, le monde, malheureusement, les artistes n'auront pas cette validation.
Ouais, je pense que le système de paiement va être appelé à changer assez rapidement. Parce que là, c'est comme un Klondike. La porte va se fermer bientôt.
Tu sais, mettons les boss de Sirius sont capables de googler aussi. Puis s'ils voient que Spotify paye zéro, c'est quoi? Les radios commerciales payent zéro. Moi, je donne 30$ à chaque fucking tour.
Mais c'est pas eux qui ont décidé
180
ça.
Postes.
C'est juste que la loi ici au Canada protège dépendamment de. Par exemple, il faut que tu aies une licence pour avoir le droit de diffuser en satellite, ce qui est différent par Spotify qui passe par Internet. Fait que la licence, si tu veux l'avoir, il faut que tu acceptes les lois canadiennes. Là, à ce moment-là, ça vient avec des tarifs comme les radios. Puis là, tu es obligé de payer un certain montant de tes revenus. Fait que là, si tes revenus, c'est ça, c'est un pourcentage, mais c'est sûr que tout l'argent est allé au câble. Mais tant mieux.
Yann, prochaine question.
Il y a bien du monde qui demande, c'est quoi tes critères, admettons, pour signer un groupe dans ton label? C'est quoi que tu vas chercher chez un groupe?
Faut que ça soit... Regarde, c'est simple, là. Faut juste que ça soit un coup de cœur puis que tu aies le goût de le faire. C'est vraiment... Okay. Ça se résume à ça. Mon staff, là, on reçoit des bands, hein, puis ça a beau peut-être avoir un potentiel commercial, si ça ne fait pas triper puis on n'aime pas ça, t'sais. Le critère, il est vraiment, sont-tu bonnes tes tunes?
Est-ce que vous allez voir les bands live ou t'aimes mieux l'écouter en audio?
Moi, je suis bien fan de « Tu m'envoies trois tunes sur SoundCloud », puis je devrais pas avoir envie de skipper les tunes.
Okay.
Tu m'envoies trois tunes SoundCloud, là, ça joue dans mon auto pendant que je vais quelque part. Si j'ai skippé là, puis que j'ai pas eu trop, ben, c'est sûr que c'est dole comme ça. En show, tant mieux si ça m'impressionne, mais... Ils seront pas toujours en show devant du monde, les bands, pour justifier qu'est-ce qu'ils font. Fait que des fois, il faut que tu sois bon aussi en enregistrement. Faut que tes tunes soient capables d'avoir un rayonnement naturel.
Il y en a-tu des fois qui t'envoient un tu vois qu'ils ont un réel talent, mais la qualité sonore est tellement dégueulasse.
Ça, c'est pas grave. On est habitués, là. Okay. On fait toutes des maquettes de tunes. Okay. Ça sonne tout le temps un peu le cul. Okay. Ça, c'est pas grave parce qu'on est capable de voir le potentiel.
Tu veux juste voir la tune est-tu bonne, la voix est-tu bonne, la bande est-tu bonne.
Des fois, c'est parce que ça fait des phrases faciles, des rimes faciles. Je veux dire, Vincent, il a commencé, puis ses tunes étaient déjà avec des bons textes qui n'avaient pas des rimes faciles. Mais encore aujourd'hui, en 2024, il y a des bands qui sont comme « Toi, nananana, moi.
Ouais. »«
Monde, nananana, vagabonde. Ah. » Là, t'es comme « Qu'est-ce que c'est ça? »
Moi, je pensais que ça allait être « Sonde.
» Man, je te jure, le fameux « Monde » avec quelque chose, puis « Seconde », là, on l'a vu 100 000 fois, là. Mais c'est parce que les artistes ne se reposent pas la question, vraiment. Ils se disent, ils écrivent des tunes un peu comme tout le monde écrirait une tune versus la première tune en français, c'est « Y a-tu quelqu'un? » Moi, j'ai un cactus, OK, chez nous. Il s'appelle Vincent Pic. Puis, c'est écrit sur son pot, « Y a-tu quelqu'un qui peut m'arroser? » C'est hot, là, sa phrase-là qu'il a écrite à l'époque, 30 ans plus tard, moi, je pense encore à ça. Mais les artistes, aujourd'hui, arrivent encore avec des phrases qui sont comme un peu génériques, que j'ai pas le goût de mettre sur un cactus.
Fait que ouais, la réponse, c'est pour que t'aies de la poésie qu'on a le goût de voir sur un cactus. Yann, prochaine question. Il y a combien de questions, Yann?
Il en reste peut-être 2-3.
OK, parfait.
Il y en a une pour Vincent. C'est Alexandre qui demande comment est venue la collaboration avec Yves Lambert de La Bottine pour la chanson « Boisson d'avril ».
OK. Donc, on parle de 1996, Martin Dupuis, qui était notre guitariste. Ça faisait pas longtemps qu'il est arrivé. C'est un grand, grand fan de musique traditionnelle. Et c'est lui qui a écrit la toune. Puis c'est lui qui a eu l'idée d'inviter Michel Bordeaux puis Yves Lambert de La Bottine à la chanter avec nous autres. J'ai dit, ben bonne chance avec ça, tu sais, de un. Fait qu'il a contacté Françoise, qui est la femme à Yves et qui s'occupe de sa carrière. Yves, t'as pas sûr pendant tout. Michel, il a dit oui tout de suite. Yves, ça y tentait plus ou moins. Il était pas dans une place où ça y tentait de faire ce genre d'affaires-là. Jusqu'à temps que son garçon de 17 ans dise « Man, tu vas faire tourner Groovy, vas-y! » Fait que là, ils scoraient
des. C'est juste pour avoir de l'air cool.
C'est juste pour avoir l'air cool devant son garçon de 17 ans. Fait qu'ils sont arrivés au studio Plante Verte au printemps de cette année-là. Puis Yves, il connaissait pas en tout. Il n'y avait pas pratiqué. Michel, il coachait comment faire. Puis à un moment donné, moi, il faut que je coach le chanteur de la poutine souriante à prononcer mieux, parce que lui, il a son accent dans la dernière, mais ça ne fitait juste pas. J'ai eu l'accent de la rive sud de Montréal. Bref, quand tu dis, tu sais, t'es en train de shifter la façon de chanter à une légende comme lui, c'est buzzé. Mais ils sont. Tu réalises que d'un, c'est tout du monde cool, et c'est tout du monde qui n'était pas dans son élément, fait qu'il était un peu vulnérable. Puis, et moi aussi, parce que tu te mesures à quelqu'un d'aussi fort qu'il l'embête. Fait que finalement, tu te retrouves à la même place. Puis on a fait la toune en 3 heures. Okay. Ils ont été payés 300 $ chaque. That's it, that's all. Et Michel a fait 2 tracks de poudre de rythmie. Tchac, 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 tchac. 2 takes, une après l'autre. Si c'était tight, c'est débile. Et Yves, on l'a invité à la faire peut-être 15 de fois par la suite. Fait que tout ça a été orchestré par Martin Dupuis.
Wow, c'est cool. J'en ai une de Fredo qui demande... Est-ce qu'une relecture acoustique du répertoire de Groovy est prévue, comme vous avez fait avec Grimmscott?
Attends, avant que tu répondes, tu peux-tu redire Grimmscott?
Hey man, c'est malade ça!
J'ai trouvé,
dans ma tête, à moi...
Yann, c'est comme quelqu'un qui marche, puis oh, la cheville vient de lâcher. Il est tombé en bas du trottoir, mais il fait comme si de rien n'était.
J'ai capoté là-dessus. Je suis tellement content.
Je pense que j'aurais pu glisser sur Groovy aussi. Groovy puis Grimmskunk.
Yeah.
Grimmskunk.
Puis dis donc Groovy Aardvark.
Groovy Aardvark.
Groovy. Ah oui, tu prends des Groovy. Pauses. Yann, ça fait combien de temps que tu es au Québec? t'es pas capable de dire Groovy?
Groovy Aardvark.
OK, ça marche.
Ça, c'est très bon.
La musique de Grimmskunk est plus facile à reproduire acoustiquement parce que c'est des riffs comme assez rock'n'roll, alors que Groovy, mais t'as juste Poisson d'Avril, c'est... C'est tough à faire acoustiquement. Puis toute notre musique est bien comme un peu comme Iron Maiden. C'est des riffs à 2 gits. C'est des voicings à 1 note, beaucoup, qui sont pratiquement pas jouables sur une guitare acoustique parce que ça te prend l'électrique pour faire sonner ces genre de notes-là. Parce qu'on n'est pas un band d'accord tant que ça, tu sais. On a quelques-unes qui sont faisables, mais la plupart ne le sont pas. Parce que c'est un projet auquel tu penses à faire de temps en temps, parce que c'est le fun de faire sortir de ta boîte de confort puis faire de quoi de différent. Mais la moitié de notre répertoire serait pas faisable acoustiquement à cause de la nature des riffs de guitare en général.
OK. Est-ce que... attends un peu.
Là, j'espère qu'il y a encore...
un autre question sur Grimmskunk.
Là, t'es-tu capable de prononcer Rouge Pompier? Qu'est-ce que c'est pour Rouge Pompier?
Rouge Pompier?
Rouge Pompier? Rouge Pompier?
Rouge Pompier?
Toi, Rouge Pompier, puis... extra! Extra, yo!
Où il roule, c'est R pour une raison X.
Question pour Jesse et Vincent.
Ça, c'est-tu la dernière question ou il y en a un autre?
Ouais, c'est pas mal la dernière.
OK.
Quel est votre moment favori lors des shows live?
C'est qui pose cette question-là?
C'est Raphaël qui pose cette question-là.
Raphaël. Okay. Moment favori, est-ce-tu de questions floues que c'est
ou bien un souvenir, votre souvenir le plus fort, admettons, d'un show live?
Ça, c'est quasiment comme dire... Dis-moi quelque chose d'intéressant. Raconte-moi une histoire qui va m'amuser.
Mais ça veut peut-être dire qu'ils ont l'impression, justement, qu'il y a plein de choses de cachées, puis là, ils sont comme, dis-moi tout, ben, tant mieux. Veux-tu commencer?
Ben, si le band est vraiment en poche, le moment préféré, c'est quand il arrête. Non, je fais des jokes parce que je vais juste voir de la qualité dans la vie. Mais c'est une drôle de question, en effet. T'sais. Mais quand... Il faut que le chanteur soit ou la chanteuse soit bon. Puis quand tu sens qu'il y a une connexion avec le band, puis que tout marche d'une shot, puis tu sens que tu es à la bonne place. Tu sais que c'est là qu'il faut que tu sois dans ta vie à ce moment-là, puis le band, ils sont en train de projeter le meilleur de qui sont d'eux-mêmes, là, puis tu le sens, puis cette énergie-là...
Oh, calé!
Ouais, mon micro! y a de quoi qui se passe, ici. Y a comme, tu crées un moment, comme un nirvana qui fait que, wow, y a, tout le monde le sent, là. Ça arrive.
Les gars de ton band, quand je dis ton band, toi, quand tu penses ton band, le tu penses-tu automatiquement groovy? Ou là, ça se fait assez longtemps que Grimmskunk, tu sais, quand je dis ton band, ouais, t'es comme...
Je vais toujours être associé à groovy.
OK. Mais les gars de groovy, tu leur parles combien de fois par mois ou par semaine?
On s'écrit à tous les jours.
OK, encore?
Oui, oui. Ouais. Okay. Ben, pour la business ou whatever, là. OK. Mais tu sais, comme la fille à Martin, Azur, elle a fait un show à l'Esco récemment. On est allé voir elle. OK. On est allé voir son show parce que c'est la première fois que je jouais avec un pic. Puis moi, c'était bien important que je l'avais joué avec un pic.
OK.
Parce qu'elle a commencé à jouer de la bass par rapport à moi. Elle a fait son cours à Drummond. Tu sais, elle a vraiment.
C'est cute,
ça. Oui. Puis elle est bonne au bout. Elle a une belle prestance, une belle femme. Je dis femme, elle est rendue adulte, là. C'est fou, tu sais. Moi, je l'ai tué dans mes bras. Ils vont dire que c'était hier. On se parle tous les jours.
OK. T'sais, mais puis la question, c'était plus beau souvenir. Ouais. Je t'ai amené sur une rail qui a détourné de ça. Mais c'est quoi la question encore?
Ben c'était... En fait, ouais, souvenir de show live, mais j'ai le goût de la pimper. T'sais, admettons que Mike a eu son Sandbell, ou est-ce que c'était un moment très puissant? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça qui vous a frappé ou qui était plus puissant que les autres dans votre carrière? Ou,
Ben, moi, j'ai pas fait des hyper gros shows comme eux autres souvent. Donc, pour moi, ça a été marquant. Le FEQ, 12 000 personnes. Je me souviens de m'être dit sur la scène, c'est drôle, je vois pas la fin de la foule. Puis ça m'avait beaucoup impressionné. Mmh. On a failli avoir cette chance-là avec Extérieur quand on a joué avec les Cowboys Fringants sur les plaines. Mais il s'était mis tellement à pleuvoir cette année-là. C'était la Saint-Jean. Puis les Vulgaires avaient joué. T'étais là, en plus, cette journée-là. Il y avait les Vulgaires qui jouaient un peu avant nous autres. Là, nous autres, on arrive, puis il y avait tellement plu que finalement, les plaines, il y avait peut-être 60 000 personnes. Puis nous autres, on jouait devant 4 000, là, tu sais. Fait que c'était un peu décevant parce que moi, j'avais...
C'est weird, hein, quand tu y penses que t'es comme... Il y avait juste 4 000.
Ben, c'est ça. C'est
fucking
ça.
Énorme.
C'est incroyable. Ça, mais c'est parce que tu vois le site des plaines avec 4 000 personnes puis la pluie, tu te dis, ça aurait pu être nous d'avoir cette chance-là. Mais j'ai eu cette rédemption-là parce qu'avec Rouge Pompier, avec Sum 41, tu joues, tu sais, devant un public qui dépasse un peu. Mais le lendemain, les répercussions, on était contents parce que c'est pas comme si le monde était déçu de nous avoir vus. On a eu beaucoup de feedback puis de rétroactions positives. Puis encore aujourd'hui, il y a du monde qui nous dit « Je vous ai découvert ce show-là.
Okay. »
Fait que ça a été quand même un gros moment pour le band. Puis je me souviens que dans la foule, je me souviens que le monde, vu qu'ils chantaient nos tunes, ça a comme influencé le reste du monde à embarquer. Puis on a eu des moments où est-ce que tout le monde chantait nos tunes, ce qu'ils avaient peut-être entendu à la radio. Puis le band qui était avec nous autres, Pop, qui faisait l'autre première partie, sont venus nous voir puis ils nous ont dit « Hey, vous êtes vraiment big ici? » Puis j'étais comme « Non, c'est un effet d'entraînement de la foule. » Mais pour eux, il y avait l'impression qu'il y avait 12 000 personnes qui nous connaissaient, okay, là, vraiment. Puis c'est juste comme 2-3 tunes que le monde avait catché puis embarqué. Moi, ça m'a beaucoup marqué, en tout cas. Mais toi, c'est sûr que là, avec le retour des Franco à un moment donné...
Moi, le show de Groovy qui m'a le plus marqué, ça n'a rien à voir avec ça, c'est à Saint-Alphonse, en Gaspésie. On joue dans un bar ouvrier qui s'appelle le Belgicois.
OK.
Et on arrive là, en après-midi, on a râlé toute la nuit, on est arrivé là, il fallait soundcheck, puis la gérante et la barmaid a dit que la même
c'est
personne.
C'est-tu la même personne?
Mettez vos musiques dans le coin.
Ah, OK.
Mettez vos musiques dans le coin.
Elle appelait ça musiques.
Parce que là, on va faire un test de son. C'est quoi musique. Ça? Je ne sais pas c'est quoi un soundcheck. Puis là, non, on ne peut pas faire de bruit là parce que ma clientèle, ils jouent machine en ce moment. Puis c'est tous des vieux.
Fait qu'il faut que tu fasses un soundcheck en silence pour pas déranger les gamblers.
Exact. Fait que là, ça marche pas de même. T'sais, nous autres, il faut qu'on fasse les tests de son. On va pas faire ça devant tout le monde, mais qu'on embarque tantôt. Fait qu'on a fait un coup de bass drum. Tout le monde a sauté. Puis là, non, c'est fini là. Fait que c'était un soundcheck d'un coup de bass drum. On dit « Christ de Greg Brune, man ». Puis ça, c'était en 98, c'est notre troisième album. Ça roule pas pile. On nous a fait des festivals, puis tout, là, on retombe là-dedans. On a tellement fait ça quand on était kid, on a grindé ce chemin-là qui était à faire. T'sais. Mais man, là, il y avait un band qui ouvrait pour nous autres. On est allé à l'hôtel, on est revenu, la place était pleine à craquer. On parle peut-être 300 personnes, une petite place, salle communautaire, sale, mais tu sais... Rendu là, ça faisait
ça fait une autre parce que c'était. S'il y avait des machines à poker.
Si je veux dire, l'ambiance. Okay, c'était tous des jeunes, tu sais. Ben, c'était tous les amis de cette band-là. Puis nous, on est dans le sous-sol, puis pendant le show, le plancher fait ça de même, tu sais. Comme les coins d'école, là. Puis là, on reçoit du plâtre, tu sais. Oh, tabarnak! Aïe, aïe. Il n'y a pas de stage, rien. Fait que là, c'est à notre tour. Là, on arrive de plein de misère sur le stage, puis on commence qu'il y a du quelqu'un. Puis ça fait. Ton, 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 la foule, je nous ai tombé dessus. puis tout arrêté d'une shot. Puis là, on était enseveli de, je sais pas, peut-être 50 personnes. Puis là, tranquillement, juste t'es poigné de même, peut-être 5 minutes, là, comme...
Ils ont tombé sur toi.
Sur tout le bal, tout a revolé. Les amplis, le drum, tout a revolé.
Très hot.
Puis là, je disais, sacrement, qu'est-ce qui se passe? Là, finalement, on commence, le stock, il marche, et on remet le drum. Ça a pris 20 minutes. On a recommencé à tourner avec une chaîne.
Vous avez pas arrêté le show après ça? Oui,
non, okay. Ben non. Là, il y a les 12 plus gros gars de la place qui ont fait une chaîne humaine tout le long du show.
OK. Je
dis, ça, c'est fucking rock'n'roll.
OK. Man. Ah, ouais!
Moi, c'était mon
C'était votre moment, Roadhouse.
Ouais. Man, c'est comme The Show Must Go On, puis là, c'est qu'ils se sont payés, puis man, ils se sont fait rentrer dedans.
Ah, Chris! On dirait que j'avais pas catché qu'ils vous ont attaqué. Moi, je pensais qu'ils avaient tombé sur vous autres.
Le mouvement de foule a fait en sorte qu'ils ont. C'est ça. Ils sont, c'est comme une marée humaine.
C'est pas dans un show de Marc Hervieux que ça va arriver. Fait tout le monde sur Marc Hervieux en dessous de ses fans.
Mais c'est le fait que personne n'a paniqué, c'est le fait qu'il y a 12 gros gars qui se sont mis en chaîne, puis qui ont. Tu sais, ces autres se sont fait rentrer dedans tout le long du show. Là. Puis là, j'allais voir, j'ai donné de la bière, puis tu sais, ça, c'est une connexion forte avec un moment dont tu t'attendais pas pantoute. Non,
puis là, tu disais, c'est ça, un Groovy a pas de show de prévu?
Oh, oui.
OK. On a quelques OK. C'est quoi que Groovy a prévu?
Bien, on prévoyait aller à Fredericksburg vendredi passé, puis on a fait ça. C'était bon. Bien, écoute, je te nomme les shows.
Ben oui. Mais nomme-en que quand le monde va l'entendre, ils peuvent acheter des billets.
Ben, c'est ça.
Fait que dis pas, genre, demain.
On joue avec les Vulgaires Machins à Saint-Narcisse de Rimouski le 6 juillet.
OK.
Avec les Vulgaires, man.
Avec les Vulgaires.
Oui,
C'est un
festival
show.
Je pense que c'est un festival de tracteurs. Ça va être débile en crime. Ça fait longtemps que je vis Guillaume puis Marie, je m'en ai deux autres.
C'est un gros show, ça.
Puis à Saint-Narcisse, je suis allé voir CEO, c'était une heure en bas de Rimouski à peu près. Dis, yes, il y a des festivals-là, c'est tabarnakement cool, ça.
Très, très hot. Il va y avoir des shows de festival que, tu sais, moi, je sais l'horaire un peu vite, mais les shows ne sont pas comme annoncés. Fait que Groovy ne peuvent pas annoncer toutes leurs dates. Ils vont en avoir. Mais c'est la même chose avec Rouge Pompier.
Mais il va y avoir plein de shows.
On a fait un ensemble. On joue le 31 mai à Salle BMO à Saint-Thérèse.
Tu peux pas le dire, ça non plus.
Là, c'est vendu. Fait que on joue ensemble, même.
Ouais.
C'est le fun, puis comme je disais, eux autres, ils jouent sur le plancher, fait qu'il n'y a pas besoin de faire de changeover. C'est le bon band, c'est mon boss en plus.
Hey boy. Hey, moi, là, pour vrai, il y a du monde qui se demande un peu comment ça se passe dans ma tête, cette relation-là. Là, moi, je vous jure qu'à tous les fois, je le vois rentrer dans une pièce, je suis encore le kid de 14 ans qui est comme hyper fier. Je suis un peu gêné de même. Incroyable. Plus beau métier du monde.
Certes. Tu sais, moi, j'ai... Quand tu as fait mon en direct de l'univers, moi, c'est la première fois que je le faisais, puis ça faisait des années que je disais non. Mais quand je me suis réveillé le matin, j'ai fait asti. Je sais pas si je leur ai dit à quel point Groovy a été important pour moi. Puis c'était vraiment, j'étais comme asti, j'aurais dû leur dire ça, Fait que quand je t'ai vu arriver, j'étais tellement touché, j'étais tellement content de te voir. T'es tellement fort sur un stage. C'était vraiment un honneur que tu fasses ça pour moi. Puis je voulais te remercier. Fait que, allez, si on veut te voir en show, c'est où qu'on va pour acheter tes billets ou savoir c'est où tu vas jouer?
Bien, toutes les shows qui n'auront pas Groovy, il faut aller sur le site de Slam. Il y a la page de Groovy Hard Work. Okay. Moi, sur ma page personnelle Facebook, je vais les nommer les shows du moment que je peux. Parce que j'ai aussi des projets avec Joe Grimskunk.
Okay.
C'est la musique... Yes, c'est The Joe Evil Piano Show. C'est les tunes de Grimskunk et autres compositions. Clavier et on est juste deux.
OK.
Fait qu'on a promené ça. Quand Grimskunk a pris un break, on est parti là-dessus. Puis c'est toutes les tunes à Joe, donc les tunes les plus classiques, plus proches de Bach, parce qu'il est un grand fan de Bach. Fait qu'on fait ça de même. Puis je joue avec un gars qui s'appelle.
C'est de la bass électrique ou contrebasse?
Non, là, je joue à la bass électrique.
OK.
Puis je fais toutes les Bachs avec Joe. Puis alors, c'est tough de faire du Grimskunk, pas de beat. Fait que je compense beaucoup avec la main droite, comme c'est moi qui garde le beat autant que possible. Fait que c'est tough, puis ça nous permet d'être meilleurs musiciens parce que si t'es dans les airs, là, fait qu'il faut vraiment que tu pas que la tune déraille trop BPM, là, que de garder tête. Fait que c'est une bonne pratique pour nous autres. Et je fais de la musique avec un gars qui s'appelle Colin Moore, qui est un chansonnier. Depuis plusieurs années, Colin, il s'était ramassé à la voix une couple d'années par pur hasard parce que Fred Poulin avait suggéré, puis il s'est travaillé en finale. Puis là, mais là, COVID est arrivé, puis on a fait un album qui s'appelait Golden, qui est vraiment très, très bon, mais qui est passé un peu dans le beurre grâce à cause de COVID. Mais Colin, c'est un trooper, mais c'est un des gars que j'adore. C'est un de mes meilleurs amis. Sa musique est extraordinaire.
Puis il a fait un de ses clips une fois aussi à lui. J'ai fait un de ses clips. Ouais, il est vraiment, vraiment bon artiste.
T'es rendu à combien de clips, toi?
178.
Il fait ses propres clips. 160, okay.
Ouais, 178.
Que tu as réalisé son clip?
Ouais, j'ai réalisé produit, okay. Montage, tout 178 clips, dont un de Colin Moore.
OK. Ouais.
Alors, c'est ça. Fait que tous ces shows-là ne sont pas reliés un avec l'autre, ils sont reliés à part avec moi-même. Fait que vous pouvez aller sur ma page et vous allez les pogner. Je ne suis pas le gars qui annonce le plus dans la vie, puis c'est pas que j'en ai besoin tant non plus. Alors, puis j'aime ça laisser la place aux autres aussi. À un moment donné, à Groovy, on n'est pas saf, c'est chaud. Puis il y en a qu'on refuse parce que, bon, comment dire, il y a tellement de bons bands là aussi qu'à un moment donné, on a eu notre part du gâteau, puis on le fait, ça donne bien. Puis on revient à des places qu'on aime bien, tu sais, comme Café du Clocher à Alma, des places qu'on connaît bien. Comme
Saint-Lazare, tu fais-tu encore chez Maurice à Saint-Lazare?
Où est-ce qu'on s'était rencontrés?
Ouais, ouais.
Ils font plus de. Non, on n'a pas été réinvités depuis cette fois-là.
C'est vrai, c'est moi qui ai scrappé votre carrière
avec
de Saint-Lazare.
Ta première partie.
Excuse-moi.
Si tu avais sorti une coupe de balle, mon gars, ce fois-là, ça se répète même plus, je pense, aujourd'hui. Mais c'est là qu'on s'était vu, puis tu nous avais inclus dans ton numéro. On était bien content, tu sentais bien fier. Puis, c'est la première fois que je te voyais aussi en show, puis je disais, il veut rien savoir, ce gars-là. on t'a aimé tout de suite.
Hey, cette place-là, c'est la place où les bandes de rock vont mourir, là, je veux dire, à Saint-Lazare. Là, les humoristes, c'est cool, mais si t'es pas un band de cover, là, dès que tu fais un band, dès que tu fais un show d'un band original à cette place-là, là, c'est terrible. Terrible,
okay.
Terrible.
Alors qu'avant, on remplissait la place, là, Groovy.
Groovy, c'était plein à craquer.
Plein, okay? On l'a fait 3-4 fois. Puis à un moment donné, je ne sais pas si ils ont changé de propriétaire ou ils ont changé de vision, mais ils ont arrêté de nous appeler.
Non, c'est le même dude, là, mais tu sais.
Non, c'est Richard qui a la même. C'est le propriétaire. Il a annoncé que c'était à vendre il y a 4 ans. Puis de la façon la plus burlesque, dans le journal, c'est marqué je vais vendre. Je vais demander 4 millions. S'il y a quelqu'un d'assez naïf pour payer ça, je vais vendre. Puis là, c'est comme. Dis pas ça dans le journal, Richard, tabarnak!
Moi, j'ai des souvenirs de 2005, là, d'histoire avec lui. Puis récemment, je suis allé voir Québec Redneck qui faisait le lancement de leur tournée là. Je te jure, la salle était sold out. Chez Maurice, n'avait pas voulu acheter le show. Fait que c'était un show que Québec Redneck avait autoproduit.
Okay? Oh, ils prenaient 100% de la porte.
Ils ont pris toute la porte, ils ont sold out la place. Puis lui, il est arrivé, puis il plaçait les tables dans la place. Puis il disait, les tables, ils vont rester là. Puis là, il disait, oui, mais c'est parce que c'est sold out, il n'y aura pas de place, là. Il disait, non, mais c'est mon bar, je fais ce que je veux. Il était comme, mais on t'amène 1000 personnes, tu vas vendre 10 000 piastres d'alcool, on peut-tu tasser les tables? Non, mes tables, ils vont là.
Ah, ouais, oh shit.
Fait, Québec Redneck, qui remplissent une place, faut qu'ils s'ostinent avec ce dude-là, là, c'est épouvantable.
Ah, ouais.
C'est épouvantable. Moi, je remplirais pas 1000 personnes, là, fait que je prendrais peut-être mon trou, mais Québec Redneck, à un moment donné, lui, Richard, il devrait juste dire, allez-y, faites votre soirée.
Fuck, j'avais signé. Moi, on aurait dû finir avant, mais. Après avoir fait la première partie de Groovy, il m'avait demandé, tu veux-tu faire la première partie d'Éric Lapointe qui va venir la semaine prochaine? Puis j'étais venu et je faisais la première partie à Lapointe et il y avait une madame qui m'avait demandé de signer son vagin. C'est la seule fois de ma vie, je savais même pas si c'était possible, signer un vagin. Puis là, Lapointe m'avait dit, tu veux-tu venir pour les autographes? Puis j'avais fait, OK. Puis là, il y a une madame, elle vient me voir, puis elle est comme, tu peux-tu signer mon vagin? Puis là, j'étais comme... Puis là, je tape Lapointe, je fais, Caroline, elle vient de me demander... Mais je pensais que c'était une joke. Je fais comme, elle vient de me demander de signer son vagin. Puis là, je me reviens, puis elle est comme, les pantalons baissés, puis elle a un bic dans les mains.
Un bic.
C'est comme ça avant. mais c'était weird, c'était weird. Ouais. Ouais.
C'est dirt.
Puis après j'ai demandé, tu sais, comme là moi je suis parti à Rive, j'ai fait j'ai redonné le crayon, puis là je m'en ai ri, je suis comme ta crowd, ils demandent-tu souvent qu'on signe leur vagin? Puis il était comme c'est jamais arrivé. Fait que là, elle, je sais pas pourquoi. À tilter, est-ce que...
Même Éric Lapointe trouve ça weird.
Ouais, même Éric Lapointe, il est comme...
Calme-toi.
Frotte pas sa noune avec un bic, est-ce que... C'est trop agressif. Ça, c'est une femme.
pompé, les coups de paper. Ah.
Hey, fait que, puis toi, si on veut te voir, si on veut voir Rouge Pompier.
Ben là, on sort un album le 22 mars. Ça veut dire que là, on fait là pour une grosse tournée cette année. On va avoir une dizaine, quinzaine de spectacles. On va aller voir toutes les villes. On va faire les festivals. On fait un album aux 4 ans. Mmh. Fait que dans le fond, nous autres, c'est nos fans qui décident de nos tunes.
C'est tout le temps des noms de vedettes. Vous aviez Kevin Bacon. Vous avez eu Chevy Chase.
Neve Campbell. Là, on est dans l'air Michael. Fait que là, c'est Michael Caine qui sort le 22 mars. Fait que si jamais tu veux qu'on fasse un album avec ton nom, c'est possible.
Ah ouais, il y aurait un Michael Ward.
Ça serait. Ah ouais. C'est très possible. Parce qu'on est dans l'ère Michael. Fait qu'on a 4 ans pour sortir.
4 ans pour 4 Michael. Fait qu'il y a Michael Caine. Adam, vous avez Michael Caine.
On sort Michael Caine. Les autres, le monde ne le sait pas.
Ça doit être Michael Douglas, Michael J. Fox.
Je laisse brainstormer comment ça fonctionne.
Michael Jackson.
On verra.
Cool. Je viens de me faire.
Mais donc, c'est ça.
Vincent, il est parti fâché. En passant. Non, parce que j'avais dit au début, j'avais dit, hey, si t'as envie de pisser, tu peux partir, mais je pensais pas qu'elle allait partir dans la dernière minute.
D'après moi, dans sa tête, il est comme j'ai hâte qu'il y ait une question pour Jess. Ben, donc, un album aux 4 ans, c'est nos fans sur Patreon qui entendent tout, ils vont tous recevoir, ils reçoivent nos maquettes. C'est eux autres qui choisissent les chansons qui vont sur l'album.
OK. Fait
qu'il y a un système, ils écoutent nos chansons, ils donnent des notes. Puis là, après ça, quand vient le temps d'enregistrer l'album, on pogne les meilleures tunes qu'eux autres ont décidé, c'est ça qu'on tape. Okay. Puis là, pendant 4 ans, c'est avec ça qu'on travaille.
Puis ton Patreon, c'est quoi?
Patreon Rouge Pompier.
Patreon.com/rouge.
Ouais, c'est ça. Puis les ceux qui sont abonnés, par exemple, ils reçoivent Michael Caine, vont le recevoir en CD physique gratuit à maison.
Okay.
Là, c'est comme un Patreon où est-ce que ils peuvent être abonnés à des niveaux où est-ce qu'ils reçoivent des trucs spécifiques de luxe. On met plein d'affaires là-dessus. On a parti ça au début de la pandémie. 4 ans, meilleure affaire qu'on a fait de notre vie.
OK.
Meilleure affaire qu'on a fait de notre vie.
Ouais, moi, Patreon, je suis vraiment content.
Aussi. Incroyable. Moi, ça a tout changé parce que là, on peut créer 100% pour le fun de créer.
Sans stresser.
On s'amuse avec ça là, à l'infini. C'est vraiment, vraiment cool. On est chanceux, mais c'est depuis le début du band qu'on a décidé de faire ça aux 4 ans comme des élections. Fait que les gens, ils nous posent plus la question « Quand est-ce que votre album sort? » Il sort, ça sort au mois de mars dans 4 ans.
Très cool. Fait que je vais te gosser dans 3 ans pour c'est un ça. Michael Ward.
Ben oui. Yes. Hey, y en a qui ne savent pas, mais Mike a chanté sur une toune d'Extérieur. Ouais. Puis moi, j'aimerais quand même mentionner ça, que ma relation date avec lui de cette époque-là. Mais sur l'album Mons, partie 2, La Trappe, on a une chanson qui s'appelle Mon classeur. Puis ça commence avec Poudé et Chabot. On leur avait envoyé une toune. Puis ce que je me souviens de l'histoire, c'est que quand vous l'avez fait un peu en joke, je pense, toi puis Martin, mais c'était pas, vous saviez pas ça allait quoi être l'ampleur, mais aujourd'hui, je me fais encore parler de cette chanson-là avec vous autres. Oui, ça a encore aujourd'hui comme un rayonnement. Martin a fait partie de notre premier clip, parce que je travaillais avec Francis Cloutier. Puis Martin, à l'époque, on avait besoin pour le clip de Whippet de refaire de la voix off parce que c'est de la pellicule puis il n'y avait pas de son. Puis c'est lui qui parle à la fin du vidéoclip. Fait que moi, là, j'étais donc content de revoir enfin Martin dans mon univers d'extérieur. Il y avait toi pour la première fois. Puis là, aujourd'hui, je ne sais plus combien d'années après, je suis tellement content d'être assis ici avec toi. C'est un plaisir.
Très cool. Hey, ben, merci beaucoup, les gars.
Get a room!
Merci à vous autres. Merci, Yann. Merci, tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci.